I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Propulsé par mademoiselle.com.
Justement pour faire ça aux gens. C'est l'épisode 51 de la pistache du podcast.
Oh my god,
ça n'a plus aucun
déjà
sens.
Ce podcast est trop long.
Les gens nous supportent depuis tant de temps. C'est
comment
fou.
Vous faites comment on devrait vous donner la médaille d'honneur de la Légion du Mérite.
Ouais, c'est vrai.
Ça, ce truc qui existe totalement.
Totalement.
On en fera un badge.
@mademoiselle.com.
J'espère qu'un jour on aura des goodies, laisse-moi kiffer, on aura des pins en forme de pistache et un badge qui dit la Légion d'honneur de la médaille du mérite des gens qui écoutent laisse-moi kiffer depuis 51 épisodes.
Et un gros badge. On ferait l'Olympia et puis on jetterait nos t-shirts sur les gens et ça va.
On aurait des canons à t-shirt aussi comme ils ont aux États-Unis.
Non mais attendez.
Des canons à t-shirt? Ouais, c'est genre des gros tubes comme des, tu vois, des fusils à eau, mais c'est un gros tube où ils mettent des t-shirts en boule et ils les lancent genre quand ils font les trucs de campagne, tu sais, pour politique. Et après ils lancent comme ça, il y a une scène dans Parks and Rec tellement marrant, tous les gens ils sont juste trop contents d'avoir des canons à t-shirt Leslie Nope.
D'accord.
Et après ça se déplie en l'air et les gens ils attrapent les t-shirts, la foule en délire et tout. Voilà, formidable.
Ouais, on va faire ça, tout à fait.
On va faire des t-shirts niquer des pères
avec YouTube en première partie.
Au stade de France.
C'était sur l'Olympia.
J'avais augmenté au
moins, c'est ce que j'allais dire.
Level up.
Visez la lune.
Chers amis, nous sommes en compagnie de deux personnes merveilleuses que vous allez peut-être entendre en fond rire de temps en temps. Il y a Lina et Suzanne. Donc Lina qui est la fille de Fab, dont on a parlé dans un épisode récemment. Et Suzanne qui est en stage pendant deux semaines en observation chez nous. Voilà, ce sont deux jeunes filles de 12 et 13 ans. 13 et 13 ans alors.
Amazing.
Et voilà, vous risquez de les entendre rire potentiellement car il n'y a que des personnes hilarantes autour de cette table. Donc forcément,
ouais. Hilarantes ou ils sardinent. Plus personne ne sait.
Putain.
Donc par exemple, là, personne n'a ri.
Suzanne est morte de rire.
C'était
un sujet ma pas meilleure blague. Hein. C'est ma meilleure blague depuis un mois, je la fais à toutes les sauces.
Ah, dites donc au poteau qu'elle est trop tous les jours et que ça, c'est son best.
Voilà. Le combo.
Bon, très bien. Alors, je vous propose maintenant que j'ai donné toutes les infos que j'avais à donner, qu'on commence avec les commentaires.
Ouais,
super. Ouais. J'ai deux vides bolos que j'ai chopé sur Apple Podcast, car vous faites vraiment et je vous en remercie, car c'est très drôle. Moi, ça me fait très plaisir de lire vos vides bolos. D'abord, ah, super. Un pseudo qui n'a aucun sens. JJYTGJJJU. Voilà. Merci.
Tu peux le lire en entier.
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Voilà,
qui
nous laisse donc une vie de bolos intitulée « Coming out inattendu ». Quand tu veux faire écouter une musique à un repas, mais que tu... Mais... Super,
tu racontes bien.
Elle est forte, quel talent de storytelling.
Alors, on la refait, c'est parti. Quand tu veux faire écouter une musique à un repas, mais que lorsque tu réussis enfin à mettre le son sur la télé, tu te rends compte que tu as cliqué sur la mauvaise chanson et que c'est... Foufoune de Mara, bien entendu, qui s'est mis en route. Et ton cousin qui te balance, on savait déjà que t'aimais les femmes. J'étais pas prête. Et c'est une belle vie de bolos. Une belle vie de bolos. J'arrive pas
à
parler,
c'est compliqué.
J'avais un peu peur que ce soit du porn.
Non.
Un jour, j'ai ouvert l'ordi d'une personne proche de moi que je ne citerai pas. Et cette personne s'était tranquillement branlée sur Pornhub la veille et avait tranquillement fermé son écran dans le plus grand des calmes.
Détente.
J'ai dit, je peux prendre ton ordi pour regarder un truc? Cette personne m'a dit, bah bien sûr. J'ai ouvert, bam. Ok.
C'était quoi,
une
Mimi
info. C'était du porn lesbien.
Ah, ok.
Mais ce n'est pas une personne de type lesbienne, c'est juste...
D'accord,
kiff,
oui, c'est...
Ouais, très bien. Okay. Voilà. Faites attention à fermer vos onglets, hein, la prochaine fois, et à pas laisser votre ordi. Non, je veux dire, j'ai même pas.
Ça sert à ça, navigation privée sur Google, ça sert à
mais
ça.
Mais ça aurait rien changé parce qu'elle a juste pas fermé la fenêtre, elle a fermé son écran.
La...
C'est en mode détente, tu rouvres, bon, t'arrives sur Netflix normal. Sauf que là, c'était Pornhub.
Ah ouais.
T'es
super.
Sûr que c'était pas une série particulièrement chaude de Netflix?
Je sais pas comment te dire, mais je reconnais assez facilement le layout de Pornhub. C'était
c'est
pas
très
Netflix.
Ressemblant à Netflix, hein. C'est rouge et noir.
Bien sûr, bien sûr. Une autre vie de bolos, cette fois à l'église. l'église. C'est déjà voilà. C'est Smith Banana qui nous laisse ce message qui
très
dit
beau excellent pseudo.
Je me baladais à Lyon toute seule en tant que bonne touriste, je décide donc de visiter une église. To be honest, quoi ?
Où est Lyon ?
Je les bacs, t'occupes pas de moi. To be honest, il faisait bien 30 degrés et je crevais de chaud, donc en vrai, dans les églises, il fait frais, donc j'y suis allée. Je m'assois sur les bancs dans l'allée centrale et je me repose un peu pour me rafraîchir. Et je traîne sur Instagram quand je tombe sur une story de On The Verge, un podcast qu'on vous a conseillé dans Laisse-moi kiffer, qui conseille d'écouter un autre podcast qui s'appelle Un podcast à soi sur sexualité des femmes, la révolution. Pour penser à l'écouter plus tard, je me dis que je vais le télécharger. Et malencontreusement, je lance le podcast au volume maximal dans l'église.
C'est bien parce qu'en plus, ça résonne pas du tout dans
citation,
une église.
Citation. Je savais pas qu'une femme, elle mouillait. Déjà, comment elle fait notre chatte, en fait ? Personne sait, en vrai, de la que la lubrification... que la lubrification, ça aide. Même le mot cyprine, je l'ai appris à 26 ans. Bref, inutile de vous dire que j'avais encore plus chaud en sortant de l'église. J'étais rouge écarlate de gêne.
Cyprine,
voilà.
In.
Jésus a entendu cyprine, il devait être ravi.
Bah oui.
Sur sa croix, on l'adore. Non.
On t'adore, Jésus. Big bisou dans
Jesus.
La meuf, Jésus.
Hi, Jesus. How are you, Jesus?
La meuf a brillé en une demi-seconde. Je vous ai déjà raconté cette anecdote de Jésus sur la croix que je pensais que c'était une dame qui faisait de la gymnastique.
Oui. Voilà. Ah, bien, c'est vraiment notre truc préféré.
Pour vous dire à quel
elle
point
dans
j'étais éduquée.
Sur mademoiselle, sur les croyances débiles qu'on avait quand on était petite.
Voilà.
Tout à fait. Je croyais que j'ai... Putain.
On va pas refaire le débat sur l'eau bénite qu'on a le droit ou pas de boire, parce qu'on l'a déjà eu.
On a eu tellement de débats
c'est
dans ce podcast. N'est-il pas temps de célébrer ça? Je propose une minute de silence. Ce qui est complètement bien pour un podcast. Non, mais c'est fou.
Mais c'est une belle célébration. Mais peut-être qu'on pourrait faire un épisode spécial débat, tu sais, comme les clubs de débat qu'ils ont à la fac.
Ah, ça va être chiant.
Ah, vous savez,
on peut débattre sur des débat, trucs. On pourrait okay. Un débat sur les religions. Genre, chacun représente une religion. Non, mais... ça peut que bien se finir.
Pierre est si fier de lui.
J'ai découvert un podcast pour expliquer Raël au Raëlien. Il a très peu d'écoute, mais je pense qu'on pourrait l'inviter.
Est-ce que c'est ton gros kiff?
Notre débat sur les religions, non. Il serait bien, lui. Hein.
Très bien. Team Maï. Alors, sinon, moi, je voulais dire merci à Mimi.
Merci, ouais. Mimi.
Ouais. Pour son gros kiff de la dernière fois.
Merci, Mimi, il me saoule.
Oui, parce que mon gros kiff, c'était toi, Loulou.
Bah oui, et ouais. Ça m'a fait trop plaisir, alors voilà.
J'ai peut-être, des pingouins.
Peut-être j'ai un peu pleuré, je vais pas mentir. Oh. Voilà, j'ai versé ma petite larme en faisant le montage, bon, voilà. Puis après, j'ai entendu dire Kalindi dire « Ouais, bon, moi, des fois, elle te gueule dessus aussi !» Ce qui est totalement la vérité, voilà. Je le dis, je suis peu aimable. Voilà, c'était tout pour moi. Est-ce que vous avez des commentaires,
vous ? Tu es peu aimable, mais peu dans le temps. Peu, beaucoup.
Quand elle est peu aimable, elle l'est pendant un moment restreint, en tout cas.
Voilà,
c'est
ça. Le pourcentage de temps où tu es peu aimable est relativement peu élevé.
Écoutez, ça me fait plaisir.
Surtout que t'en veux pas aux gens. Généralement, les seules altercations que j'ai eues avec toi, 3 minutes après, c'était fini, quoi.
Oui.
Bon, voilà, globalement, c'était rapide.
Ah. J'avais une vie de bolosse que j'avais notée la dernière fois et je m'étais dit c'est plus pour Loulou donc je vais attendre que tu sois là et je voulais te l'envoyer, j'ai oublié. Bref,
d'accord.
C'est Bliss Ginny qui raconte Bis de bolosse. Je regarde les stories Instagram tandis que ma fille de 3 ans et demi joue pas loin. Petite pensée pour toi Cédric.
Salut.
Comme d'habitude j'oublie que parfois il y a du son et je me fais surprendre par Loulou qui chante foufoune dans ta bouche. J'arrive à couper après 3 foufoune dans ta bouche que ma fille répète immédiatement. Elle me déclarera plus tard vouloir l'apprendre à ses copines à l'école. J'attends les retours enthousiastes des parents.
Ouais.
J'adore. Mais en fait, je me demande si j'ai vraiment déjà parlé de Mara dans Laisse-moi kiffer. Jamais,
c'est
je pense.
Tes stories et le vlog et le...
C'est ça. J'en ai parlé partout ailleurs. Donc du coup, ça compense, c'est ça.
Peut-être qu'un jour, tu pourrais en parler aux auditeurs de ce podcast.
Au cas où, juste pour vous mettre du contexte, Mara, c'est une DJ et une chanteuse.
Qui s'est fait assassiner dans sa baignoire pendant la Révolution française.
Personne.
J'adore cette vanne.
J'essaye d'être sérieuse 2 minutes.
Tu l'as déjà fait, en plus.
Putain. Donc Mara est une chanteuse suisse qu'on adore et qui a sorti un morceau qui s'appelle Foufoune, que je vous conseille vivement d'aller écouter. Et peut-être qu'un jour, je ferai un kiff plus élaboré sur Mara. Voilà.
Juste histoire qu'un jour, elle sera là.
Oh my god!
Oh my god!
Elle est suisse? Elle est toujours suisse? Elle vit en Suisse?
Non, elle vit à Paris.
D'accord. Je suis fatiguée.
Ah, je vois
j'ai
ça.
Pas dormi.
Ça va être un super épisode! Alors, je propose maintenant qu'on passe au mini-kiff.
Ouais, ouais, ouais.
Yes!
Ouais, ouais.
Jingle.
Laisse-moi kiffer le podcast de Mademoiselle. 2 heures feel good, de kiff et digression. Ils sont mimes, ils sont cool quand même. Laisse-moi kiffer, les mini-kifs sont prêts.
Oh my god!
Amazing!
Oh my god!
Incroyable, Valentin, putain!
J'allais dire!
Qu'il est fort!
Putain, Valentin, t'es si sympa! Merci de continuer à faire des jingles
quel
chaque homme épisode.
Quel homme
orchestre! Excellent! Alors, Mimi, est-ce que tu commences?
Oui, allez, je commence. Alors, mon mini-kiff. Alors, j'ai hésité avec un objet dont je me servais jusqu'à maintenant, mais il vient de tomber en panne de batterie au bout de 12 minutes. Donc, j'en parlerai un autre jour. Ce n'est pas un sextoy, ce serait bizarre, car je m'en servais vraiment tout de suite. Mon mini-kiff. Alors, c'est un peu comme Sweet November. C'est un film qui date un peu moins, et que j'aime trop, et que vraiment trop peu de gens ont vu. Donc, je me suis dit, voilà, je vais continuer à évangéliser les foules sur le cinéma.
Parce que c'est The Fountain.
Non. Franchement, c'est j'oserais pas infliger ça aux gens, mais je l'aime trop. Ouf. The Fountain, c'est un film trop chelou. Ok. Micro Kiff The Fountain. C'est un film trop chelou de Darren Aronofsky, qui est un réal assez connu, qu'il a fait. Donc c'est un film avec Hugh Jackman et Rachel Weisz. Où en gros, c'est un film sur le thème du film, c'est l'amour et accepter la mort comme une partie de la vie. C'est les deux thèmes du film. Okay. Sauf que ça se passe sur quatre époques différentes. Il y a des conquistadors, il y a un gars dans l'espace. Tout le monde est joué par Hugh Jackman ou Rachel Weisz. Après lui, il a une plante magique, tu vois, qui rend immortel, mais sa femme a un cancer. Bref, c'est triste. C'est hyper beau, c'est imbitable. C'est vraiment l'enfer. Mais j'aime beaucoup ce film. Il me fait plein d'émotions très complexes. Mais jamais de ma vie, j'oserais le recommander aux gens parce que je suis là, je veux pas.
C'est nul.
C'est... Mais tu sais, peut-être c'est nul, je sais même pas. Il fait ressentir des trucs, je sais pas si c'est bien.
Oh, j'ai le droit de te clasher, Mimi. Y a pas que toi qui a le droit de dire que Camille, c'est de la merde. Et ben voilà.
Oh putain, le headshot de France.
C'est pas de la merde,
Land.
C'est surcoté, c'est pas pareil. On peut pas dire que The Fountain est surcoté pour le coup, parce que vraiment, ce film a laissé tout le monde.
On peut pas dire qu'il est sous-coté non plus. Hein.
Ok,
merci Cédric. Le pauvre Cédric.
Alors,
Mimi,
c'est
quoi ce vrai
mini-kiff ? Film qui est sorti en 2011, c'est un film britannique qui s'appelle Attack the Block, par un mec qui s'appelle Joe Cornish, qui n'a quasiment rien fait jusqu'à récemment, où il a enfin fait son deuxième film. Quoi ?
C'est quel Cornish ?
Bon, salut, Codex Urbanus, qui a le même type de prénom de merde.
Cornish, ça te fait rire. Mais parce que la cornouaille est tout, tu vois, il est britannique.
Non, mais c'est oui, pas je sais, mais bon, je qu'on a eu un fou rire sur le prénom d'une meuf il y a quelques années.
Ça s'appelait Samine.
Ah non,
rien que de m'en souvenir, ça me fait rire.
Bref, je te laisse continuer.
Oh, c'était débile, Corniche. Non, mais n'hésite pas à avoir des fous rires sur mon kiff, comme ça on laisse Kalindi tranquille.
Yeah, parce que merci.
La pauvre. Donc, Attack the Block, c'est un film britannique que j'aime trop. Le plot, c'est une invasion d'elle. Elle en peut plus déjà. Loulou. Elle est rouge et elle rit.
Non mais vas-y, continue, fais semblant de pas me voir.
Ok. C'est une invasion d'aliens dans une cité londonienne, donc une cité comme en France, c'est-à-dire la Thèse.
C'est
et
clair.
Du coup, c'est plein de petits zouzous de la Thèse qui vont se retrouver confrontés à une invasion d'aliens et essayer de gérer ça comme ils peuvent. Et elle me saoule. Elle rit. Pardon. Et du coup, c'est trop bien parce que déjà, c'est hyper rare de voir des invasions d'aliens dans ce setting-là et pas dans genre Manhattan. Donc, c'est trop cool. Je pense que j'ai rarement vu des films où il y a des aliens en Angleterre tout court. Donc, j'étais contente. Et donc, il y a plusieurs trucs. Déjà, le casting, il est composé quasiment que d'inconnus à l'époque. Sachant que c'est le film qui a révélé John Boyega, qui maintenant est dans Star Wars. Donc, quand même, il est fort. Mais à l'époque, il a vu une pub sur Internet pour le casting du film et il est venu faire le casting et c'était genre son premier long métrage. Donc, c'est plein de petits
rêves,
gars de ouf. Started from Attack the Block, now with Star Wars, tu vois.
Et
il joue le héros qui est un genre d'ado bourru qui parle pas trop. Enfin, tu comprends qu'il a un peu des problèmes à la maison et tout et qui, genre, il y a des aliens qui arrivent et ses potes et lui, ils sont là. Bon, on va prendre des battes et on va essayer de taper les aliens. Qu'est-ce que je te dis? Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire. Et du coup, ils font ça, mais c'est vraiment des petits gars, c'est des petits zouzous. Ils ont genre des vélos BMX et des battes de baseball parce qu'en plus, comme c'est pas aux États-Unis, tout le monde n'a pas un flingue. Donc ils essayent, ils galèrent comme ils peuvent. Et il y a aussi, alors pour le coup, qui est moins inconnu, il y a Jodie Whittaker qui est la nouvelle docteur de Doctor Who. Et Nick Frost qui a beaucoup joué avec Simon Pegg dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz, etc. qui joue un. Nick Frost.
J'adore.
Ah ouais.
Il est tellement drôle, j'ai envie de le baiser.
Plus que Simon. Plus que Simon Pegg.
Les deux, ensemble.
Ok.
La même fois.
Plus que Clovis Cornillac.
Laisse Clovis en dehors de
c'est
ça.
Un peu le, c'est un peu c'est le Nick Frost français en même temps que Clovis, bref.
C'est vrai.
Ouais.
Mais en moins drôle. Enfin bref.
Non mais là je suis la femme d'Edouard Baird en ce moment, donc anyway. Je vous en parlerai plus tard.
Et de Tom Hardy, on l'a vu dans la vidéo, j'ai vu. Hein.
Kalindi a fait une vidéo avec Camille et...
avouer qu'on partage le même amour, mais c'est pas grave. Mm-hmm. On se battra jusqu'à la mort pour la bouche de Tom Hardy. Bref. Du coup, il n'y a pas Tom Hardy dans Attack the Block, mais il y a Nick Frost qui joue le dealer de weed de la thèse, qui du coup fait pousser de la weed chez lui, et qui est un genre de geek qui reste enfermé chez lui, mais qui fait pousser de la drogue. Et du coup, c'est trop cool parce qu'il y a tout ce cast de, donc du coup, les gens connus qui font des second rôles, et tous les petits gars principaux, c'est des gens pas connus, qui doivent se démerder avec une invasion d'aliens. Ça se passe juste en une nuit où les aliens arrivent au début du film, et après, c'est bon, bah, que faire. Et l'autre truc trop cool, mais je vais pas trop m'apesantir dessus parce que je pense que c'est bien d'avoir la surprise, c'est que c'est mon design d'alien préféré, ce film. C'est vraiment les aliens les plus visuellement intéressants que j'ai jamais vus. Et du coup, je vais pas vous dire à quoi ils ressemblent parce que sinon, ce serait gâché. Suspense. Donc, je vous conseille de pas regarder la bande-annonce et d'aller voir directement Attack the Block, d'acheter le DVD car malheureusement, il n'est pas sur Netflix. Donc, j'ai regardé, mais peut-être qu'il est sur Amazon Prime ou OCS ou whatevs. Je vous mettrai un lien dans la description quand j'aurai fait des recherches plus sérieuses que il y a 10 minutes dans la cour du bureau en me rappelant que j'avais pas cherché s'il était sur Netflix. Et du coup, il est trop bien et c'est vraiment un petit film. Il dure 1h30. Il se tient hyper bien. Il y a rien qui part en couille. Il y a rien qui est irrésolu à la fin. C'est vraiment, OK, il y a des aliens qui arrivent. On a une bande de petits zouzous en BMX. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de gérer le fait que des aliens sont arrivés? Et il y a pas trop d'adultes. Donc, il y a Jodie Whittaker qui joue une infirmière qui se retrouve un peu mêlée à tout ça en mode, OK, je vais vous aider, I guess, parce que il y en a un qui est blessé, donc elle veut pas le laisser tout seul. Et du coup, c'est plein de gens de la vraie vie qui essayent de gérer des aliens qui ressemblent à pas grand-chose qu'on ait vu en termes d'extraterrestres au cinéma. Et c'est trop bien, c'est trop frais, ça se regarde bien. C'est un peu un huis clos, donc il n'y a pas besoin d'un grand écran non plus, vu que ça se passe vraiment à l'intérieur de cette cité-là. Et voilà, regardez-le ce week-end, passez un bon moment. Il est très bien, Kalindi va te plaire de ouf.
Donc, moi, j'ai jamais vu. Donc,
Mais c'est trop bien.
Et c'est quoi, c'est un film qu'il a fait il n'y a pas longtemps, mais qui était vachement plus pour les gosses, non?
Ouais.
C'était Alex quelque chose, non?
Ouais, c'était un bail un peu genre Roi Arthur revisité avec des enfants.
Ça. Alex
le
Roi ou un truc comme ça. Mais que ça
je sais pas si c'était bien. Je n'ai pas trop
vu. Ça a l'air d'être plus jeune. Ça a l'air trop rigolo. Est-ce que t'as vu...
C'est un de mes films préférés, Attack the Block. C'est trop bien.
Ah bah ça m'étonne pas.
C'est génialissime de l'enfer.
Non mais je dis ça avec tout l'amour que je te porte.
Et en plus il y a vraiment le côté des kids qui parlent mal et qui tapent des extraterrestres.
Putain,
c'est trop stylé.
La boîte de conserve. C'est ton enfant quand
ils
il aura grandi.
Beaucoup plus loin
Cédric.
Que putain, ils sont, c'est vraiment des gros schlagagas de la du terre-terre, de The Terre-Terre.
The Terre-Terre, you know. Oui, donc
ils sont trop bien. Et t'as Nick Frost qui est le deuxième adulte, toi qui a l'âge mental de d'un enfant de 6 ans.
Bah, Nick Frost quoi.
Et ouais.
C'est un mec qui fume des joints et qui joue aux jeux vidéo. Est-ce qu'il vit sa meilleure vie? Non, car la drogue c'est illégal. Est-ce qu'on peut le blâmer? Probablement pas.
C'est trop mortel. Mais Mimi, elle a tout dit. Mais c'est je surplus comment à quel point c'est un kiff ce film quoi.
Grave. Et donc son nouveau film qui est sorti cette année, c'est Alex le destin d'un roi, et c'est sur un écolier de 12 ans de notre monde qui tombe sur Excalibur, l'épée du roi Arthur. Voilà. Je sais pas si ça c'est bien, donc je ne vous le recommande pas, mais je vous le.
Mais allez voir.
Faites ce que vous voulez. Voilà, vous êtes un pays libre.
Est-ce que Mimi t'as vu Cowboy, c'est Cowboy versus Alien.
Cowboy versus
non,
Alien.
Pas vu.
Yes, avec James Bond et
avec Daniel
et
Craig.
Indiana Jones
et Olivia Wilde aussi.
Yes. Incroyable.
J'ai pas compris le rôle, mais bah écoute, c'est un film que je te recommande. Sans
ça c'est une comédie.
Me rappeler du scénario
j'sais
vraiment
pas.
À fond.
Il y a des cowboys et des aliens, je veux dire, c'est assez simple.
C'est ça, c'est des cowboys qui essayent de fighter des aliens et Daniel Craig qui est là et qui est comme d'habitude, tu vois, hyper vénère et il fait le cowboy.
Qui est très britannique quand même pour être un cowboy.
Bah laisse-le avoir
non,
le
mais pardon,
droit de faire genre il est américain.
Ah bon, je veux pas être raciste, hein, mais...
non, y a
voilà,
des,
si
ouais.
tu aimes les comédies avec des, ou avec des aliens qui changent un petit peu, je te recommande cette immense bouse, qui toutefois est assez
non,
plaisante.
Non, mais c'est un bon navet, ouais, c'est ça, c'est
bon
que ça
nanar,
marche,
ouais.
En fait. C'est pas juste un film de merde, c'est que c'est le même setup, c'est que, qu'est-ce qui se passe si des aliens débarquent à un endroit où c'est pas... Où
à
c'est
une
pas,
époque,
c'est pas l'habitude qui débarque.
Et là, bam, vas-y, les cow-boys, il y a des aliens. Et en fait, du coup, ils jouent tous premier degré des cow-boys, tu vois. C'est ça qui est trop drôle, là.
Ok, peut-être je vais le regarder.
C'est marrant, c'est marrant. Été, mais personne.
Peut-être je vais me faire un double feature détective Pikachu Cowboy contre Alien ce week-end, histoire d'être bien mature. Vraiment hyper mature dans ma tête.
Joli. Bravo Mimi pour ce kiff qui a priori réunit toi et à minima Cédric. Mm-hmm. Et bientôt Kalindi et moi.
Mm-hmm.
Sûrement.
Envoyez-moi vos avis sur les aliens de Attack the Block en DM, ça m'intéresse.
Ah, j'allais voilà. dire à attacktheblock@mademoiselle.com, non.
Mais reste qui existe
non,
comme ça.
Les aliens chelous à mademoiselle.com.
Kalindi,
oui.
Quel est ton mini-kiff? Vous n'êtes pas sans savoir que je suis la reine autoproclamée des sosies.
Oui!
Vous le savez, bien sûr, c'est de notoriété publique. Et
il y a un article.
Et il faut savoir que je trouve très bien les sosies des autres, mais je me trouve aussi très bien mes sosies à moi.
Comme Pénélope Cruz.
Pénélope Cruz, tout le monde le sait. Bon,
absolument,
ça, j'en souffre au quotidien. C'est terrible. J'arrête les gens, je leur dis arrêtez de me prendre pour Pénélope.
Oh la Pénélope. Tous les matins, je te dis ça.
Mais je sais, mais c'est éreintant, tu vois. Les gens sont là, ils sont confus. Mais outre Pénélope Cruz, j'ai un autre sosie. Et je le sais depuis des années. Et j'en ai parlé ce matin au bureau. Et c'est Eureka dans La Petite Sirène.
Ah, tu me saoules. Déjà, j'en peux plus de
attends,
cette story.
Mais c'est qui?
Eureka. C'est le albatros de la petite sirène. Il est tout le temps
le oiseau.
Le oiseau alcoolique.
La oiseau qui boit.
Pardon, c'est niveau de ton enfant, quand même.
Et, hein?
Non, je t'arrête à quoi.
Et donc, j'ai toujours remarqué que je ressemblais à Eureka, pas seulement physiquement. Après, on a un nez assez similaire, ça c'est sûr.
Psychologiquement, du coup?
Mais on est, en fait, je sais pas, je me suis toujours trouvé des mimiques semblables avec Eureka. Et bref, ce matin, une de mes stagiaires, Louisaine ou Alix, je sais plus laquelle, je les confonds toujours, me dit, je vais faire une news sur La Petite Sirène en live action.
C'était Alix. Je le dis, on l'embrasse, elle est venue dans Laisse-moi kiffer, voilà, c'était Alix.
Et donc Alix dit, je vais faire une news sur La Petite Sirène en live action. Je lui dis, bah cool. Je lui dis, bah tu sais que moi, je ressemble trop à Eureka, mais n'importe quoi. Et là, elle lance... Elle lance des moments de La Petite Sirène. Elle me dit « Mais c'est toi ! Mais c'est toi !» Et donc, elle s'est mise à rigoler. Il faut savoir que ma stagiaire Alix a un rire tonitruant et très communicatif. Et bref, du coup, cet après-midi, je me suis absentée. J'ai travaillé en dehors du bureau. Et quand je suis revenue, les stagiaires s'étaient adonnées à un petit jeu. C'est-à-dire qu'elles avaient pris des captures d'écran de Réka dans certaines situations en disant « Kalindi, qui fait ça ?» Et en fait, je suis arrivée, j'ai ouvert et j'ai dit « C'est moi !» Mais dans toute ma superbe. C'est, je sais plus, il y avait Kalindi quand elle est en colère avec la tête d'Eureka qui fait une tête mais débile du cul. Et vraiment, c'est hilarant. Et donc, je suis trop fière de ressembler à un personnage de La Petite Sirène, même si c'est le plus pété du cul. Voilà, bien sûr, j'ai pris des... Après, on a refait... Je me suis mise en situation. Donc, on a pris des photos de moi pile au même moment que les photos de Paéville de la Eureka. Et donc, on vous mettra tout ça, bien sûr. Dans l'article du podcast. Voilà. Vous nous donnerez votre avis. Mmh. Et je pense qu'en tant que reine des sosies...
Eureka Kalindi. Mademoiselle.com.
Tout à fait. Voilà, c'est mon mini-kiff. J'ai beaucoup ri toute l'après-midi.
Ah oui, c'est vraiment hilarant. Mais je pense que vous pouvez faire pause sur ce podcast et aller regarder une vidéo de Eureka. Imaginez à quel point c'est Kalindi.
Tout à fait.
Et vous allez passer un bon moment.
Eh oui. Bien sûr. Surtout si vous êtes un peu alcoolisé.
Bah, écoute, comme Eureka.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Commencez pas à boire. Faites pas ça. Sinon, pas
genre,
bien.
Vraiment, c'est même plus à consommer avec modération. C'est ne buvez pas. Nul. C'est nul de boire.
C'est clair.
Eh bien, merci Kalindi.
Mais de rien.
Bravo.
Qui était très succinct. Bravo
bah oui,
et personne n'a
des mini-kits courts maintenant.
Personne n'a eu un fou rire intempestif, donc ça
bah
c'est
non,
bien.
Oui, tu vois, c'est j'ai eu un succès.
J'avoue, quand t'interromps pas, t'es concise, ça va vite.
Bah moi, Fabie m'a
incroyable.
Dit maintenant il faut faire plus court les mini-kifs, alors j'ai mon patron.
Ah, Fabie l'a dit ça. Ouais. Écoute, Fabrice, on fait des kifs de la taille qu'on veut. Voilà, tout le monde est content de ce podcast.
C'est clair, ouais,
on veut faire des podcasts de 2h30, moi, c'est mon king. Faisons ça. C'est juste qu'après Kalindi a dédiné, alors on peut pas.
Dixit, la personne qui s'est barrée pour manger des ramen.
Une fois, c'était avant que je sache à
quel
point c'était bien, laisse-moi kiffer. Écoute.
Qu'est-ce qu'on est bien ici, c'est vrai.
Je sais pas, on fait un vote, c'est quoi le truc? C'est un putsch en
mais
direct.
Mais non, Cédric, tu sais très bien ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on écoute ton mini-kiff. Voilà, transition.
C'est quoi? Non, en vrai, je l'ai...
Tu l'as choisi il y a 1 minute 30.
Non.
Non, tu l'as pas encore choisi?
Non, ça ne m'arrive jamais.
Tu l'as pas encore choisi, Cédric?
C'est la ponctualité, mon mini-kiff, car j'adore... Non, c'est pas vrai.
Il joue avec nos nerfs quand même, Cédric.
Ah bon?
Le saviez-vous? Cédric dit toujours, je serai là à 18h15. Cédric est toujours là, autour de 18h30, au plus tôt.
Ouais,
c'est un
parce
choix
que vous
qu'il
êtes
fait.
À cheval aussi sur...
Donc quel est ton vrai mini-kiff?
Mon vrai mini-kiff, en vrai c'est un truc que j'avais... Je voulais en parler avant et je l'avais oublié.
Très
et
bien.
Du coup c'est un jeu...
matière.
Voilà. Comme quoi c'est important à mes yeux, tu vois.
Oui.
C'est un jeu vidéo, pour changer.
Putain, mais
non,
cette personne... Dirais-moi.
Attendez, moi j'aime bien.
De passion.
Non, mais la vérité, on a chacun nos kinks. Bon, allez, c'est Cédric.
Ton gros kiff, c'est un manga. Je te lance un truc, par contre.
Non. Alors non, c'est pas. Non. Et en fait, c'est un jeu vidéo. C'est. Alors là, pour l'intro, c'est un jeu vidéo qui est une longue série. Qui. Voilà, on a. C'est le dernier épisode de la dernière saison. Et en fait, pourquoi j'ai surkiffé? Parce que au moment où Game of Thrones se terminait et où c'était le seum, car vraiment bof.
cette saison.
Tout un podcast dédié sur Mademoiselle, voilà. Vous irez l'écouter. Bon.
Et du coup, en fait, ce truc-là se terminait aussi en jeu vidéo et c'était ouf. Et ça m'a ramené toutes les émotions que je voulais avoir de Game of Thrones.
Quel est ce truc alors,
et donc,
Cédric?
Ce jeu, c'est le jeu où The Walking Dead, mais la version telle-telle.
Ah,
et en fait, c'est un jeu un peu...
La version telle-telle, ça
ouais,
veut dire mobile?
Ouais, telle-telle, c'est un studio.
Ah.
Qui, du coup,
pardon.
Est...
Telltale.
Telltale.
Genre, tu dis un conte.
Ah, tu dis dire des contes.
Pas Telltale, genre, marque de mobile.
Téléphone,
quoi. Telltale. Hi, Telltale. Bref. Et donc, du coup, en fait, maintenant, ce studio est décédé. Car, oui. En fait, ils avaient commencé en ramenant des petits personnages trop marrants, Sam & Max et tout ça, dans le jeu vidéo. Et après, ils avaient fait un gros carton avec la première saison de ce jeu vidéo, Walking Dead. Donc, il y en a quatre. Et la quatrième, c'est la dernière. Donc, il y a... qui s'est terminé donc il y a à la fin de Game of Thrones, donc il y a trois mois.
Mai.
Ouais, fin mai.
Mm-hmm.
Et donc du coup en fait ce truc c'est
trois mois pas du tout.
Et bah du coup c'est cette saison de quatre jeux, moi je l'avais commencé il y a il y a 5-6 ans et donc après ça a mis du temps à se développer et donc là le studio il a fermé parce qu'il a fait n'importe quoi et ils ont terminé sur la dernière saison de ce jeu-là et c'est trop bien.
Et c'est des bons c'est arguments, ça, Cédric.
Non, mais
alors,
en fait,
je pense
le truc,
déjà,
c'est que...
tu peux dire que c'est, ça ressemble pas à la série. Parce c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui en ont marre
non,
de la série Walking Dead.
Avec la série, mais
c'est pas la même histoire, quoi. Ça suit pas les mêmes.
C'est une histoire alternative ouais. Où, du coup, sur la première saison, tu joues un personnage qui s'appelle Lee, qui est un personnage qui commence là au début du réveil des zombies. Et c'est le bordel. Et assez rapidement, il croise une petite gamine qui s'appelle Clémentine, qui a 8 ans dans la première saison. Et qu'en fait, il guide, tu vois, en fait, il se sauve avec elle et c'est le bordel, il y a des zombies partout et il croise des groupes de survivants et après c'est le bordel avec les groupes de survivants comme tout le temps dans Walking Dead. Soit les survivants ils sont méchants, soit les zombies réussissent à passer par la boîte aux lettres et finalement ils tuent tout le monde. Et donc en fait, ce qui est intéressant sur cette série, c'est que au fur et à mesure de l'avancée des saisons, tu suis Clémentine. Parce que Lee n'est plus vraiment là après. Et du coup, tu suis cette gamine.
Dead. No mon spoil. Avis, il est dead, mais je ne sais pas.
À mon avis, il est
dead. Bon,
dans le cadre de Walking Dead, t'es là, il n'est plus
c'est
vraiment
le
là.
Semi.
Genre, le gars, il est pas parti en Erasmus, quoi.
Le semi-spoiler, quoi. Après, il est plus là.
Il a... Non, mais...
j'ai rien dit.
Il est parti acheter des cigarettes, voilà.
Bien sûr, ouais.
Ouais c'est clair. Je vais acheter un rapido, je reviens tout de suite.
Mais je ne sais pas, vraiment, je ne suis pas en train de vous spoiler.
Non.
Mais moi-même, j'avais pas deviné.
Une déduction comme ça, d'une rapidité folle, tel Sherlock Holmes, dont on a parlé, dont on a dit du mal dans un épisode récent. Donc voilà.
Quoi, on avait dit du... Ah non, du mal de Robert Downey. Bref, on s'en fout. Et donc, Walking
Dead... Mais c'est dans l'épisode où t'étais pas là.
T'as ce personnage-là, Clémentine, que tu suis après au fur et à mesure des saisons. Et donc, dans la dernière saison, ce qui est un peu ouf, c'est que t'as Clémentine qui est donc du coup un peu plus âgée. Elle a genre 15-16 ans. Et elle s'occupe et elle traîne un petit bébé qu'elle a trouvé dans la saison 2 et qu'elle traîne avec elle depuis longtemps. Et donc, ce petit kid qui s'appelle AJ, genre Anthony Junior ou un truc comme ça.
Décidément, les enfants orphelins, ça revient aussi. Hein.
Ouais, j'avoue.
Ouais, c'est des enfants orphelins dans un monde post-apo, tel mi mort, Cédric,
c'est fou.
Non, et en fait, ce qui est stylé, c'est que Clémentine, c'est genre un des personnages de jeux vidéo les plus badass de l'univers de la création des jeux vidéo. Okay. Il y a elle et il y a Eli dans The Last of Us qui est l'ado la plus badass du monde. Et en fait, du coup, Clémentine, c'est juste que tu passes 4 saisons à t'attacher à ce personnage-là et que là, du coup, c'est un peu le miroir de la saison 1, un peu comme Game of Thrones fait parce que les scénaristes américains, ils sont une nostalgie chelou et ils reviennent en boucle. Et du coup, là, c'est tu joues Clémentine qui s'occupe de Edgy, le petit garçon qui, du coup, est devenu un peu grand. Il a genre 6 ans, un truc comme ça. Et donc, t'es un peu dans le miroir de la saison où tu joues Lee qui s'occupe de Clémentine. Oh. Et c'est trop bien parce que cette petite ado là que t'as suivi et que t'as appris à se battre et à sortir de plein de situations pourraves et tout, t'es là avec elle pour la dernière saison de Walking Dead. Tu sais que c'est la dernière du jeu vidéo parce que le studio, il est mort, qu'il a annoncé que c'était fini, il y avait plus d'argent, ils ont dû virer tout le monde. Ils ont gardé 8 pèlerins pour finir le jeu. Et l'écriture du truc, c'est trop bien. Et j'ai fini cette saison-là, franchement, des larmes dans les yeux, tellement c'était trop chou. Et trop bien, et trop trop stylé. Et c'était toutes les émotions que je voulais avoir dans le final de Game of Thrones. Eh ben, elles étaient pas là-bas, elles étaient
oui.
Sur le final de Walking Dead, le jeu vidéo qui est extrêmement meilleur que The Walking Dead, la série, car vraiment...
C'est pas dur.
Ça dure très longtemps, cette série, ouais. Et peut-être il faut enlever la prise.
Je pense qu'il y a deux trucs que c'est cool de dire. La première, c'est que, en fait, Telltale, ils font des jeux vidéo très narratifs, c'est
ouais,
à la limite
c'est,
du jeu de rôle, où en gros, c'est pas un truc où tu vas...
Héros.
Je parle... C'est pas un truc où tu vas aller te taper contre des zombies et tout. C'est, en gros, t'as des actions et t'as des choix et t'as des dialogues et tout. Mais même si t'es pas très jeu vidéo, du coup, et même si tu dis, ah, un jeu vidéo de zombies, je vais jamais y arriver. Genre, moi, tous les trucs où il faut tirer, je suis vraiment la pire golemon du monde, quoi. Il faut viser, c'est horrible. Donc, c'est pas un jeu avec des zombies, a priori, j'y vais pas. Mais je sais que Telltale, c'est des jeux qui sont vraiment, c'est le jeu qui est au service de l'histoire, c'est le, la narration qui est au cœur du truc. Et du coup, voilà, si jamais vous voulez regarder la bande annonce du jeu pour voir si ça vous tente, en plus, il me semble qu'ils sont pas très chers.
Ils sont souvent en promo, genre à 10 balles, voilà. 10 balles la dernière saison, et je crois que t'as 15 balles, t'as l'intégrale du truc, quoi.
Comme il date un peu, donc ça vaut le coup. Et le deuxième truc, ça m'y fait penser, du coup, c'est que, en fait, le comics Walking Dead, qui donc est l'œuvre originelle, c'est brutalement arrêté cette semaine, voilà, où en fait ils ont dit, hé, le tome qui sort cette semaine, en fait c'est le dernier. Et tout le monde était là. Quoi? Et c'était pas genre, on annule, c'était, ça y est, c'est la fin, c'est maintenant. Et tout le monde était en mode, mais ça fait genre 200 tomes déjà que vous y êtes et ça sent pas la fin, tu vois. Et apparemment, la fin est très réussie. Donc je suis très contente parce que moi, j'ai arrêté de lire au bout d'un moment parce que juste ça coûtait trop cher et ça prenait trop de place d'acheter toutes ces BD. Mais j'en ai lu quand même une bonne vingtaine au début et j'avais été un peu déçue parce que comme la série a fait le choix de pas suivre les BD, ce que je peux comprendre, bah elle était en tout... En fait, elle a fait ce choix-là que je comprenais, mais du coup, elle était pas bien. Donc ça m'avait saoulé parce que j'étais là, mais la BD, elle était bien. Vous auriez pu faire pareil, ça aurait été bien, mais vous avez fait autre chose et c'est pas bien en plus. Mais les comics, c'était vraiment cool. Et du coup, je suis contente de savoir que cette énorme saga de comics, c'est fini. Donc si tu me dis que la fin du jeu vidéo est bien et apparemment la fin du comics est bien, ça fait 2 sur 3.
C'est pas mal.
Alors mon mini-kiff est un truc de geek, donc je vais être brève.
Ah bon?
Ouais, mais un truc de geek de la musique.
Ah,
attendez, bon voilà.
Loulou, tu as la Switch,
non? Alors c'est quoi? Récemment, j'ai écrit un article sur Mademoiselle qui s'appelle Comment je suis enfin devenue créative, que vous pourrez aller lire. Je mettrai dans les notes de ce podcast. Et en gros, j'explique tout mon cheminement du fait que je suis enfin une personne créative et c'est formidable. Et j'explique à la fin que depuis que j'ai commencé à mixer, je me dis tiens, peut-être qu'un jour je pourrais apprendre à faire de la production musicale. Et du coup, pas plus tard qu'après avoir écrit cet article, j'ai téléchargé...
C'est aux limites là, c'est super.
Ouais, c'est super. J'ai téléchargé Ableton Live. Ableton Live, si vous ne savez pas ce que c'est un logiciel de MAO, c'est-à-dire musique assistée par ordinateur. Et en gros, t'as des faux instruments sur Ableton et tu crées des musiques et des mélodies et c'est merveilleux. Sauf que c'est un logiciel peu... commun et ouais peu user friendly, c'est ça, c'est très compliqué, tu sais pas où aller chercher les trucs, moi je comprenais rien, bref. Et j'en ai parlé avec un pote qui m'a dit ah mais moi j'utilise Ableton, j'ai appris avec une chaîne YouTube qui est chambée qui s'appelle You Suck at Producing et c'est ça.
J'adore le nom.
C'est ça mon
t'es nul en prod,
exactement. Et en gros donc c'est une chaîne YouTube qui a 117 000 abonnés, donc ce qui est pas, ce qui est beaucoup et en même temps pas grand chose à l'échelle de YouTube, mais beaucoup pour un sujet de niche comme apprendre à produire des musiques. Et en fait, je pense que c'est assez bien suivi parce que le mec est hilarant. Donc, comme son nom l'indique, vous vous doutez que le mec est un peu pince sans rire. Et donc, en gros, il s'appelle Underbelly et c'est un mec américain. Et il commence toutes ses vidéos en disant « I'm Underbelly and you suck at producing ». Et il est hyper drôle. Et donc, bon, par contre, forcément, vous en doutez, comme c'est un américain, c'est un anglais. Mais pour vous donner un exemple, ça vous intéresse un jour, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui écoutent Laisse-moi kiffer que ça peut intéresser. Il est vraiment très marrant et il est toujours en train d'utiliser des expressions de merde et il est toujours en train de faire « Oh, Wazers, oh my god, oh, you did that !» Tu sais, genre, dès que t'appuies sur un bouton, il est en train de te foutre de ta gueule. Et j'ai regardé donc les genres...
Je t'imagine en train de te faire bolosser par une chaîne YouTube en se disant « J'ai appuyé sur le bouton, moi. »
Et je rigole tellement. Et je suis toute seule en train de mettre pause et de faire « Wazers, oh my god !» Et en vrai, il explique hyper bien et en même temps il se fout vraiment de ta gueule. Genre, j'ai regardé quelques épisodes et il y en a un sur les drums, donc les percussions, comment ça marche, etc. Et il dit donc pour commencer à faire les percussions, qui est un peu genre la base de ton morceau, hein, la rythmique, eh ben il faut avoir un sens du rythme. Et comment avoir un sens du rythme? Eh bien c'est bien simple, il suffit de compter jusqu'à 4, bon ça devrait aller, en boucle et à une vitesse à peu près similaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super, vous avez un sens du rythme maintenant. Et voilà, et il dit ça avec le pire ton et on l'adore. Et voilà, il est trop drôle.
Mais moi, je me sens offensée parce que je n'ai aucun sens du rythme.
C'est vrai,
il est possible que je te fasse 1, 2, 3, 4, pas sur le même rythme, peut-être pas deux fois d'affilée, mais tu me le fais faire cinq fois, c'est dead. Et vraiment, je suis golemon du rythme, quoi. Du coup, wowzer, voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire un, deux, trois, quatre.
Mais à la capoeira, ils t'ont pas appris?
Ils ont essayé de m'apprendre beaucoup de choses à la capoeira, genre faire la roue. Est-ce que je sais faire la roue? Non. Avoir le sens du rythme? Très peu. Esquiver des coups? Je me suis pris un coup en pleine mâchoire, année 2. T'es quand même censé savoir esquiver jusque-là. Ouais. Donc non, mais on a essayé de m'apprendre des choses, ça veut pas dire que je les ai appris.
Mais pourquoi faut avoir le sens du rythme pour se bagarrer avec les pieds?
Parce que la capoeira, c'est une danse, mais aussi un sport de combat, tu vois. Et du coup, c'est un sport
mais
de combat qui se danse.
C'est une danse et un sport de combat en même temps, c'est quoi le délire?
Mais il y a danse dans danse et sport de combat. Tu sais que la danse, il faut un minimum un sens du rythme.
Oui, mais la danse, c'est pas un sport de combat. Tu fais pas du tango pour démonter des gens à la
mais
sortie.
Mais t'es tellement rigide. Qu'est-ce que t'es protocolaire?
Dixit, la meuf qui veut pas qu'on s'assoie ailleurs que d'habitude dans les épisodes.
Cédric, tu vois dans Tekken 3, Eddie, ouais. Et ben c'est de la capoeira.
Mais c'est pas la vraie vie.
C'est un vrai sport.
Je
parle son langage.
C'est regarde, bon. Guitar Hero, c'est comme un concert.
Mais je te ferai un mini-riff sur la capoeira si tu veux. Je vais pas m'étendre dessus juste pour raconter que j'ai pas le sens du rythme.
Il a abandonné sa blague quand même.
Guitar Hero, c'est comme ha ha ha.
J'avais pas bon. La
C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Ah, j'ai bon. Si chaud.
Bon, ok, d'accord. Bref, sens voilà. Pour se bagarrer au Brésil.
Donc, le sens du rythme. Bon, 1, 2, 3, 4. Écoute, Mimi, tu veux faire un test?
Allez, Mimi, 5 fois.
Je vous déteste.
Vas-y.
1, 2, 3, 4. C'est dur.
Je vais pas y arriver, je vais avoir honte.
Mais tu pars du principe que tu n'y arrives pas,
Mimi. On est entre nous.
Non, mais vraiment, j'ai fait 2 ans de cours de guitare et tout. Je sais que j'ai pas le sens du rythme, tu vois.
Mais what?
Mais comment? J'ai fait des activités extrascolaires, écoute. C'est juste que je m'acharnais même si j'étais nulle. En capoeira, en guitare, je fais du judo, j'ai fait du badminton, j'ai fait du poney. J'ai fait 2 ans, je me suis cassé le coude. Bon, bah, j'ai arrêté le poney.
Putain, Mimi.
Mais fais des instruments où t'as pas besoin du sens du genre de la cornemuse ou des trucs comme ça, tu vois, personne
ne
sait.
Mais là, tu vas avoir plein de joueurs de cornemuse, ils vont t'envoyer des DM en mode écoute-moi, Cédric, le sens du rythme en cornemuse, c'est la base, ok, c'est tout. Ouais, ouais, a priori, calme.
Ça sera des joueurs de cornemuse bretons en plus, donc tu vas t'en prendre 2 fois plus dans la gueule.
Je profite pour dire qu'il est possible qu'on sirote un breuvage breton en ce moment même, offert par un adorable couple de bretons qui est venu faire histoire de couple. Je rappelle donc que je ne déteste pas les bretons, juste les forceurs. Voilà.
En plus, c'était des bretons qui aimaient Kaamelott.
Bah, probablement.
Pas
mais arrête, il sait pas, il était même pas là.
Non.
Mais quel idiot. Bref, tout ça
je
pour dire.
Je me suis vraiment dit, tu leur avais téléphoné.
Ravie d'avoir échappé à ce test de rythme.
Oui,
je me
écoute. Bon, c'est pas grave. Je t'enregistrerai en douce.
En train de faire 2, 3, 4.
Je te demanderai à chaque pause le midi.
Dans le vlog.
Ah, parce que j'ai fait 1, 2, 3, 4.
Ça y est, j'ai réussi.
J'ai envie de faire ça à des endroits randoms du bureau maintenant.
Oh, on va faire ça dans
genre,
le vlog.
Dans le vlog. Genre, je suis en train de faire le café et je suis là. 1, 2, 3, 4. Regardez les vlogs, mademoiselle. Il va peut-être se passer des choses.
Génial, j'adore cette histoire. Bon, bah voilà, tout ça pour dire que je regarde une chaîne de gros geeks de la musique et
qui parle mal.
Le mec est très drôle et il parle très mal. Et je l'adore. Et il a toujours des histoires de merde, genre comme quoi il a essayé de poignarder son oncle Bob. Voilà.
Génial.
Mais bien sûr, c'est des blagues, mais on l'adore.
Qu'est-ce que t'en sais en même temps?
Bah, écoute,
est-ce que tu es Bob?
Il a parlé d'un mec qui s'est injecté trop de trucs et qui a explosé. Donc vraiment, je pense qu'il fait des blagues.
Du coup, oui.
Tout non, ça
c'est
pour
possible,
faire vraiment pour faire une métaphore musicale. Donc c'est beaucoup d'imagination pour peu de choses finalement, mais c'est drôle. Voilà, on l'adore.
Donc, okay.
Il s'appelle Underbelly.
Underbelly.
Voilà, on l'adore.
And déjà, c'est cool comme ça. Oui.
You suck at producing. On l'adore.
Merci pour ce voilà, c'est mon initif.
Il m'a permis de révéler mes faiblesses au monde entier.
Ah mais du coup, c'est la fin des mini-kifs, donc c'est l'heure du jingle des gros kifs.
Mais non.
Mais
jingle,
si.
Jingle, gros kifs.
Oh là là,
allez,
j'ai hâte de voir ce que Valentin nous réserve.
Vas-y.
Allez, gros kifs, les gros kifs de mademoiselle. Ils nous font rire, nous font sourire, nous font grandir. Ou pas. Je vous aime.
Wow, amazing.
Ouh, ouais.
Meilleur jingle.
J'avais pas l'info que
je
c'était là.
Je n'ai pas les mots.
Attendez, mais Cédric a sursauté.
De ouf. Mais parle de talent. Sursauté de... Oh là là, implosé de talent.
Comme moi devant The Fountain, tu vois, j'ai sursauté. Comme...
Ouais.
Bon, blague de niche pour les gens qui ont vu le film.
Alors, je tiens à préciser quand même que si vous voulez envoyer...
Ça dure 2h30. Chut.
Je tiens à préciser que si vous voulez envoyer des jingles, vous pouvez le faire à une vraie adresse mail qui s'appelle laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com et je vous serai reconnaissante de m'envoyer un jingle mini-kiff et un jingle gros-kiff, car j'ai plus de jingle mini-kiff que de jingle gros-kiff pour une raison
qui est obscure. Sinon, tu prends les jingles mini-kiff.
C'est trop de responsabilité, les gros. Et t'enregistres juste ta voix qui dit gros et tu remplaces.
Ah oui.
Ça vous apprendra à t'en faire que les mini-kiffs.
On va le faire maintenant. Gros, voilà, c'est comme ça.
Et comme ça, il y a un jingle qui dit « Salut, c'est les mini-kiffs » et on remplace le mini par « gros ». Comme ça, on a un jingle gros kiff.
Oui.
Astuce.
Ah, ok. Ah.
Mm-hmm. Montage,
je l'ai.
You suck at producing.
Excellent. Allez, sur ce...
Elle a peur, Caline.
Non, elle a pas rien.
Allons-y.
Mimi, quel est ton gros kiff?
Eh bien, pour changer, je vais parler de ce que je porte dans la vie, voilà, car je sais pas, j'ai décidé de faire des gros kiffs sur mon apparence, là, ces derniers temps.
Mais on adore! Ça vient ton soutien-gorge ou pas? Tout à l'heure, tu t'es baissée, j'ai vu le paradis.
Mais j'ai déjà fait le gros kiff lingerie d'autre choix. J'ai
fait un moment.
Oui,
t'as pas fait gros kiff, mais
c'est mon principal.
C'était vraiment pas un kiff, hein. C'est juste, on t'a dit, j'ai acheté de la lingerie de grosse choix, on a fait, c'est ça qui nous intéresse! Car on adore.
Bref, du coup, je vous ai parlé de ma lingerie de chouin. Je vous ai également parlé de mon gros cul. Fut un temps, je me souviens que j'avais fait ça.
Tout à fait, c'est vrai qu'il avait imité la voix de ton cul d'ailleurs.
C'était horrible.
Il avait la même voix que Monsieur Chaussette.
Est-ce que le titre de l'épisode c'était mon cul, il a pas la voix de Monsieur Chaussette?
Exactement.
Mon gros cul, il a la voix de Monsieur Chaussette, c'était ça.
Ah, quelle vie on mène en 51 épisodes, on a le temps d'en dire des conneries. Donc,
prends donc une goulée.
Toujours dans cette démarche d'acheter de la lingerie et d'apprécier le plus possible mes formes, n'est-ce pas, comme on dit, j'ai découvert la magie des culottes échancrées. Alors, il se trouve que dans la vie, les culottes échancrées, je trouve ça trop trop beau. Je pense
c'est
que
quoi,
la
échancrée,
échancrée c'est ça remonte haut, ça remonte plus haut que les hanches.
Ouais.
Du coup, ça laisse visible le pli, tu sais, de la cuisse là.
À l'air d'un mali mon ami.
Ouais, adore. Okay. Rêve de trentenaire bien placé. Ouais. Moi, ma rêve culotte échancrée qui m'a mindfuck, c'est le clip de Flawless avec Beyoncé et Nicki, où elles sont en maillot une pièce ultra échancrée sur des bouées et où vraiment le pli là, au niveau de l'aine et de la cuisse, ça me rend dingo. Je trouve que c'est la chose la plus sensuelle du monde.
Alors, j'ai une info pour vous. Allez y suivre le compte Instagram d'une meuf qui s'appelle Charlie Chi. Car globalement, si vous voulez voir des plis. Charlie, mais non, parce que je vais mettre dans les notes du podcast, voyons.
C'était pour la vanne, mais c'était pourri.
Je
c'est Charlie Chi.
Voilà. Oh, le caca.
Vraiment nul, pardon. Oh putain.
Cédric.
Mais sur la longueur de ce.
Moi, c'est pas le meilleur.
Mais cela dit, en même temps, c'est vrai que vous auriez pu croire ça. Mais non, c'est Chi.
Comme mon cousin Fion. On a fait tellement de vannes sur sa mine de cuivre. C'est on vrai. Peut pas.
Non, mais
on peut
j'ai
pas
rien
en
dit.
Vouloir à Cédric.
J'ai rien dit, c'est vrai, tout à fait. Et bref, elle est très souvent en lingerie sur son compte Instagram. Et oh my god,
les chancrures.
Les chancrures, là.
Le pli, là.
Le pli, là. Waouh. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Bam.
Anyway.
Porno lesbien sur Pornhub.
Voilà, je vais aller m'abonner à Charlie Chi et mettre tous les likes.
Oui.
Porno lesbien sur Pornhub, c'était une autre histoire. Vous avez écouté ce podcast depuis le début, bref. Du coup, j'aime beaucoup les. Enfin, je sais que je trouve ça très joli, les culottes échancrées, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie? Comme tous les trucs de la vie, j'ai vu que des meufs ultra bonnes les portaient, parce que Nicki et Beyoncé, elles ont beau avoir des formes, elles sont quand même ultra gaulées, et elles ont notamment moins de bides que moi. Et moi, je me disais, je suis pas sûre que ce soit pertinent pour une meuf qui a quand même. Un bon bidou comme moi de porter des culottes échancrées, parce que certes c'est flatteur sur tout ce qui est haut des cuisses, mais est-ce que c'est vraiment sympa de porter une culotte qui du coup remonte haut sur le ventre et le coupe un peu en deux, machin. Donc j'étais là, bon, les culottes échancrées, c'est joli à regarder, c'est pas forcément pour moi.
Ok.
Il se trouve qu'en achetant ma fameuse lingerie d'autre choix, je n'ai pas fait attention. Mais deux de ces culottes étaient échancrées. Oh, et je l'ai découvert, parce que du coup j'ai pas voulu porter tous mes ensembles en une semaine comme je fais toute ma vie, où dès que j'achète des nouveaux vêtements j'ai envie de tous les porter d'un coup. Donc j'ai laissé traîner et j'ai récemment mis une de mes nouvelles culottes et j'ai vu qu'il y avait marqué mid-rise, j'étais là ok, sur l'étiquette que j'ai immédiatement découpée car je déteste les étiquettes, même à l'intérieur, et je l'ai enfilée et j'étais là, bah ça ne s'arrête pas de remonter, c'est ah oui, c'est ok.
C'est vraiment mid-rise.
J'ai un slip échancré et j'ai trop aimé déjà, et donc le j'avais le complexe de est-ce que mon ventre il va être joli dedans, et en fait oui, genre c'est pas, enfin bon, après j'ai toujours un ventre rond, tu vois, c'est la vie, ça va pas me l'aplatir, c'est pas fait pour, mais ça rend bien même si ça remonte au-dessus de mon nombril. Et le deuxième truc, c'est que moi je suis pas à fond sur l'épilation, je fais pas, enfin le maillot je fais autour et je raccourcis, mais je fais pas l'intégrale ni rien, j'ai fait un peu dans ma vie, c'était très chiant, notamment la repousse, donc j'ai arrêté. Et j'ai la chance d'avoir trouvé et choisi un mec qui s'en bat les couilles, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, mon autre truc avec les vêtements, les sous-vêtements échancrés, c'était les poils. Parce qu'en vrai, du coup, ça laisse apparaître une partie du pubis. Et bon, bah, les poils sont présents. Et en fait, c'est Caroline de Mademoiselle, qui est rédac mode, qui a fait un article sur une marque de lingerie, qui a mis en scène sur Instagram une mannequin qui portait une culotte ultra échancrée. Et on voyait le bout de son pubis qui dépassait. Il y avait des poils. Et c'était quand même trop joli. J'étais là. Bah voilà, super! Ça m'a rassurée d'un coup, quoi. C'est bon. Vraiment la représentation.
Fou.
Ça sert à des trucs. Après, tu te vois représenter. T'es là. Ah ouais, c'est joli.
Ah oui.
Et bah, la magie de la vie.
Ah, c'est beau.
Et du coup, j'étais trop contente d'avoir cette culotte échancrée, même si elle moulait mon bide et même si on voyait mes poils, parce que juste ça rendait hyper bien et même peut-être mieux que les culottes taille basse que je porte d'habitude. Et la cerise sur le gâteau, sans rentrer dans les détails, c'est que mon mec m'a vu avec et il est devenu ouf! Donc j'étais là, ok,
routing,
c'est parti! Donc voilà, les culottes échancrées. Petit kiff.
Oh,
peut-être que je passerai le cap du maillot de bain échancré une fois.
Yes!
Ce qui implique de montrer mes poils à la plage, ce qui est différent de les montrer dans mon lit. Mais
t'as l'indie, cette passion d'un coup, là?
Ah non, mais moi, j'adore. Ah, mais moi, c'est ma passion. En fait, j'ai toujours voulu, avant que ce soit la mode des culottes et des maillots de bain échancrés, je voyais ça dans les séries que j'aimais quand j'étais ado, où les meufs, vraiment, elles ont des trucs qui leur remontent limite en dessous des seins, tu vois. Et je me disais, jamais j'oserais porter ça. Et depuis que c'est la mode et que du coup, il y a plein de meufs qui s'exhibent avec ça, je me dis, bah, peut-être que moi aussi, je vais essayer. Et du coup, je suis trop contente d'avoir enfin l'opportunité dans ma vie de montrer à ce point-là le haut de mes cuisses, mes
c'est
hanches et mon
la meilleure chose.
Mais bien sûr, c'est sexy. Oh, c'est fou.
Ah bah,
c'est
la sainte trinité.
Je fais ça même avec mes culottes normales maintenant. L'autre jour, j'étais là, Nelly m'a cramé. J'étais dans la salle de bain, j'étais en train de remonter ma culotte comme ça. J'étais là, je me cambrais, j'étais là en train de regarder mon gros boule comme ça.
J'ai tellement envie.
Oh, j'ai trop envie de voir ça, Mimi, maintenant. C'est terrible, écoute, ça m'a créé un nouveau king. J'ai envie de voir Mimi en culotte échancrée.
Bah, je t'enverrai des DM si tu veux, écoute. Hein.
Yes,
moi, ça me fait plaisir.
Conversation devenue chelou super vite.
C'est pour pécho. Non, c'est le travail.
Et tout à l'heure, Mimi m'a envoyé donc ses kiffs. Et j'ai répondu, on n'est pas loin de la culotte fendue.
C'est vrai qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va petit. Et ce à quoi j'ai répondu, t'es ouf, je veux pas avoir les muqueuses à l'air.
C'est vrai.
Ce qui est vrai. La culotte fendue, je la conçois éventuellement 5 minutes avant de niquer. Et c'est tout. Bonjour le public.
De 13 ans, hein, on le rappelle.
Je les ai quand même en visuel. Voilà, on les embrasse.
C'est vrai que moi, je les ai pas. Du coup, j'ai l'impression qu'on est que ensemble.
Moi, je les vois depuis tout à l'heure.
Et alors ?
Voilà, bah c'est tout, je les vois.
Super.
C'était la seule info.
Excellent, voilà. Merci pour ce gros kiff, Mimi.
Bah de rien, toujours là pour parler de mes rondeurs et mes sous-vêtements. Écoutez,
on adore. Bah c'est pas de là. Tu viens chez moi, on se met en culotte échancrée, puis on prend le soleil comme ça sur le parquet.
Mais de ouf.
Génial. Allez. C'est un date.
Ça existe pas.
J'espère qu'il y aura des
échancrés pour les gars.
Ça doit exister, mais ça doit être niche.
Toi, je te vois avec non seulement le slip échancré et un crop top fuchsia. Là, je pense qu'on est
de ouf.
Alors, je propose que t'envoies un MP à Jonathan Van Ness, il doit connaître les plans.
Une vidéo de JV
qui relook Cédric en échancré crop top
avec des patins à glace.
On va faire une pétition sur change.org pour que ça arrive.
Je sais patiner. Je suis que c'est beau.
He knows.
C'est mon input.
J'adore cette info.
Kalindi fait un petit AVC. Elle revient vers nous très vite.
De ouf.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trop bien. C'est l'heure de ton gros
mais
kiff.
Oui, mais partageons l'amour pour les plis et les culottes échancrées. Voilà.
Mais je suis d'accord, le pli ici, là, c'est quand même.
Mais c'est incroyable.
Mais attendez, envoyez-nous vos meilleurs comptes Insta où on voit les plis.
Ouais, envoyez-nous vos meilleurs plis, vos meilleurs bails de
plis
de
vos plis
préférés.
Vos meilleurs plis at mademoiselle.com.
Oui, elle a le pli hyper marqué de la fesse, de la cuisse, et puis surtout comme elle a souvent des jeans qui sont découpés là, à chaque fois je lui dis je vais mettre mon nez un jour, je vais mettre mon nez.
C'est
un jour je lui dis mettre mon nez comme ça.
Donc c'est pas découpé, genre j'ai pas fait exprès de faire des trous, c'est juste j'ai des grosses cuisses qui se frottent forcément, et donc à un moment donné ça fait ça abîme le jean, et je le garde vraiment jusqu'à ce que
ça soit en short.
Jusqu'à ce que le short soit à une torsion près.
Voilà. Et ouais. Vous savez que les shorts que j'ai présentement cet été, ce sont d'anciens jeans qui se sont trouvés exactement à ce niveau-là. Voilà.
C'est ça la slow fashion.
Il y a pas si longtemps, les gars, ils portaient des crop tops. Hein. Il y a des photos du prince de Bel Air et tout avec Will Smith en crop top détente chez lui.
Ouais, mais vraiment. Moi,
bring it back.
J'ai des poils au nombril.
It's back. Hein.
Bah, lui aussi.
Pas.
Ouais, mais oui, bien sûr.
Il a des petits poils mignons et rasés par la maquilleuse. Mais c'est Will Smith, tu vois.
C'est quand même mieux, si j'arrive à porter une culotte échancrée sur mon gros bide et mes poils, tu peux faire le crop top.
Ouais, mais un crop top, c'est vraiment genre full, tu sais, 16/9 sur les poils du nombril qui sont pas non plus genre. C'est pas un endroit genre de fantasme.
Mais t'en sais rien, pas. Qu'est-ce que t'en sais?
Puis c'est surtout, est-ce que tu
la ligne du paradis
des fantasmes? Je ne crois pas.
De quoi?
Tu t'habilles pas pour les fantasmes des gens.
Si. Tout à fait.
C'est pour ça que je m'habille.
C'est toi qui es un objet sexuel.
Il avait un t-shirt Goldorak.
Non, c'est
Mazinger Z.
Mazinger, c'est le père de Goldorak.
Tout à l'heure, j'étais dans la cour.
J'étais à un degré de séparation, j'avais juste.
Tout à l'heure, j'étais dans la cour et je le vois arriver et je dis au stagiaire, qu'est-ce qu'il est mal habillé. Et il arrive et je le vois et je lui dis, qu'est-ce que ça te va bien ce t-shirt.
Quel catch. Putain, mais sérieux là.
Il m'a cru. Bien meuf.
Anyway,
sur cette excellente anecdote, quel est ton gros
kiff? Probablement la sympathie et l'honnêteté.
La sympathie, notamment envers Cédric, hein. Je sais pas si vous avez remarqué.
C'est à toi de faire un gros kiff.
Attends, j'ai fait il y a pas longtemps un sondage, enfin, tu sais, genre une question sur Instagram, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Le saviez-vous? On est sur Instagram, Laisse-moi kiffer.
Follow.
Et j'ai fait une question pour faire un nouveau bingo, des trucs qu'on dit souvent dans Laisse-moi kiffer. Et il y avait très régulièrement en réponse Kalindi qui headshot Cédric. Et qui après lui dit, je t'aime Cédric.
Je suis un peu Laurent Baffy.
C'est toi.
C'est Ségolène Royal à la fois.
Quoi?
N'importe quoi. Ouais, en fait, j'ai cherché quelqu'un. J'ai dit le premier nom de meuf qui m'est arrivé. J'ai dit Ségolène
Royal.
C'était
pas le bon.
Et c'était pas le bon.
J'ai croisé Ségolène Royal il y a 2 jours.
Mais non, c'est incroyable.
Dans un truc où on mangeait des escargots. Il y avait Ségolène
Royal.
Attends,
c'était à l'escargot Montorgueil?
Non, c'était au Cru de Bourgogne, pas très loin de rue Montmartre. Il y avait Ségolène Royal dans un magnifique tailleur orange.
Ça s'appelle une anecdote bof. Ça faisait longtemps, mais vraiment, là je pense
mais
que c'est le mot.
Qui se souvient de Ségolène Royal? C'était il y a longtemps quand même.
Bah, je sais pas, c'est quand même un être
humain. Il a Ségolène Forever à Mademoiselle
France Président, t'es au courant?
Ouais, mais en fait, tu sais, c'était il y a genre. Quand elle était au présidentiel, c'était il y a genre. Bon, ça fout patates.
Je vous propose qu'on passe au gros kiff de Kalindi.
C'est d'ailleurs Ségolène Royal, le gros kiff.
Et elle est là, derrière la
porte. C'est vrai, non. Alors, j'ai failli y croire quand même.
Le temps d'installer le doute.
Parce qu'elle fait toujours durer un poil trop où t'es là.
Ouais.
Pardon. Bah, c'est le talent. La gêne. Mon gros kiff, ça faisait très longtemps que je ne vous en avais pas parlé, c'est du cinéma.
Ah, cool.
J'ai vu un film il y a genre un petit mois, après je suis très nulle en temps qui passe, mais donc on va dire un mois,
c'était hier.
J'ai vu un film extraordinaire et en fait je suis trop contente d'avoir été voir ce film parce qu'en fait quand j'ai reçu en fait parfois je reçois dans ma boîte mail des mails d'attachés de presse qui me donnent des cartons de projection presse. Ça veut dire que les journalistes peuvent aller à des projections en amont de la sortie du film pour voir les films et après faire des critiques, etc. Donc je reçois le carton de projection, je lis le pitch du film et je m'ennuie à mourir. Donc je me dis jamais j'irai voir ce film, je vais le refiler à mes stagiaires.
Excellent, c'est à sa caserne.
Yes.
Et donc je dis à mes stagiaires qui veut voir ce film, elles me répondent Martin.
Mais en plus tu le vends toujours tellement mal, genre qui veut aller voir un super film hongrois sur le viol des enfants. Eh bien, Alix, c'est pour toi, je crois. Et Alix, elle est là.
Ouais.
Yes,
ouais,
super. Et là, personne n'a voulu y aller. Et par un concours de circonstances malencontreux, j'ai débarqué dans la salle de cinéma il y a quelques semaines, donc. Et c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est quand j'ai pas envie de faire quelque chose que je le fais et que ça s'avère être génial. Ça respecte tout à fait le dicton dont je suis l'inventrice.
Putain.
Mais t'es la personne la plus insulte.
Attends, parce que c'est un vrai dicton et elle le sort tout le temps et il marche.
Go go.
Ce qui commence mal finit toujours bien, ce qui finit bien commence toujours mal, c'est l'inverse. Anyway, donc ce que je voulais dire, c'est que
la moitié des dictons.
Ça a l'air cohérent.
C'est pas vrai, mais ça a l'air cohérent.
C'est vrai. Non, mais des fois, les choses commencent bien et finissent bien, des fois, les choses commencent mal et tournent mal.
Jamais.
Jamais. Par exemple,
à de rares exceptions.
Ton travail chez Mademoiselle, il commence bien, il continue bien.
Est-ce qu'il finira mal? J'aimais pas trop les 3/4 des jours, donc il a mal commencé.
C'est vrai, sauf moi que tu aimais plus que ta mère.
C'est ça.
Non, je comprends.
Tu vois,
c'est donc le meilleur
dicton.
Bravo, Kalindi.
Merci.
Validé par Mimi, ça n'arrive jamais.
Validé par la street.
Et ce film, je prends mon téléphone tout de suite, s'appelle Give Me Liberty, avec le meilleur accent du monde. Give Me Liberty, je gagne
Hi
du temps.
Hi Liberty, how are you Liberty?
qui est réalisé par un homme qui s'appelle Kirill Mikhanovsky, qui est un réalisateur russe. Ta gueule.
J'ai envie de rire à tous les noms des réalisateurs, c'est fou. Kirill.
Ah mais qu'est-ce
pas, il a l'air
qu'il est russe. Je suis sûr, il veut que je mette du fromage frais dans la bouche, wesh.
Ouais.
Et...
ok, c'est parti trop vite, trop loin. On n'aura plus de partenariat signé à cause de cet épisode.
Donc on va l'appeler Kirill, hein, car ouais, voilà. Et donc ce film, donc non, ce réalisateur est un réalisateur russe qui a migré aux États-Unis quand il était adolescent, qui a décidé d'y faire ses études et qui a commencé par être ambulancier avant de devenir réalisateur, scénariste et producteur. Bref, classique. Ce film là que j'ai vu, c'est seulement son deuxième film, donc c'est Give Me Liberty. Je vais essayer de vous le pitcher, sachant que ce film est quasiment impitchable. C'est l'histoire d'un jeune homme dont on ne sait pas vraiment quel âge il a, je lui donnerais 19-20 ans. Et en fait, le film commence, et le film est déjà très drôle quand il commence. C'est-à-dire, c'est un type qui se lève et dit « Grand-père, il faut se lever !» Et t'as son grand-père qui se lève, qui fait des haltères en gueulant des chants russes hyper chelous. Et après, il va dans une cuisine et il prend une espèce de poids pour se faire les muscles des bras, là. Et il écrase un poulet, pas vivant, hein, le poulet est mort. Hein. C'est un poulet à consommer, hein, qui se nourrit, pour se nourrir. Ouais. Et donc, il écrase le poulet et avec une des trucs et tout. Et donc, son petit-fils qu'on suit et qui est le héros du film vient et lui dit « Papy, arrête, j'ai déjà dit d'arrêter de faire la cuisine !» C'est déjà hilarant. Donc là, j'étais déjà conquise.
Oui,
donc, je me suis dit vraiment, je voulais pas venir une minute de film et je suis déjà à fond. Donc voilà. Et en fait, c'est une journée dans la vie de ce type qui, en fait, est chauffeur de bus pour handicapés. Donc en fait, il conduit un espèce
quasiment
de...
Quasiment ambulancier, finalement.
Quasiment ambulancier. Oh. Et donc, je lui ai demandé... Ouais, bon, bref. Et donc... Il conduit ce véhicule et en fait le but c'est qu'il amène des personnes soit qui sont handicapées mentales ou moteurs d'un point A à un point B, c'est-à-dire soit de chez elle à un rendez-vous, enfin bon bref, peu importe, il les transporte en tout cas. Et en fait ça commence le matin et ce type sait qu'il doit emmener plusieurs personnes à leur rendez-vous, sauf que il s'avère qu'une des amies de son grand-père, une russe immigrée aux États-Unis, est décédée et que donc tous les russes du Tchèque veulent absolument se rendre à l'enterrement de cette femme. Et ils insistent à mort pour que notre héros qui s'appelle Vic les emmène justement à l'enterrement. Sauf que bien sûr, rien ne va se passer comme prévu, que tout le monde râle, qu'il rate l'enterrement, qu'après il va devoir aider sa mère
raconte
à...
Raconte pas tout.
Non, je te raconte pas tout. Qu'il ça, doit aider sa mère à déménager un canapé. Sa mère est complètement zinzin. Elle est cantatrice, elle veut que lui-même soit musicien. Et il est là, laisse-moi être conducteur de bus. Bref.
Pourquoi t'es pas cantatrice?
Ça a l'air trop bien, cette connerie.
Écoute, je ne sais pas, mais ma mère m'a dit récemment, elle me dit, tu sais, si je n'avais pas été hôtesse de l'air, j'aurais été cantatrice ou ornithologue. J'ai trouvé ça génial.
Mais toi aussi, pourquoi t'es pas cantatrice?
Parce que j'ai vraiment
bien.
Autre chose à branler de ma vie.
J'adore cette réponse.
Oui, c'est ma passion. Et donc, en fait, c'est vraiment une journée dans la vie de ce type où, en fait, il a son patron qui l'appelle, qui lui dit « Mais t'es où ? Ça fait 4 heures que t'aurais dû déposer machine à tel endroit qu'il a, mais j'ai dû déplacer un matelas !» Mais vraiment, c'est une journée ça, c'est dans la vie d'un gars qui est au bord du burn-out tellement il lui arrive 10 000 trucs par seconde. Et en fait, ce type qui est tellement altruiste, qui va faire passer tout le monde avant lui, que lui, il est complètement dépassé par les événements, mais que tellement il est humain qu'il a envie de faire plaisir aux autres et il va se faire passer en dernier dans chacune des histoires dont il va être l'acteur. Et ce film, c'est un... Enfin, je ne saurais même pas comment le décrire, mais en fait, je suis sortie de là avec une pêche incroyable parce que c'est un film profondément humaniste qui met vraiment l'humain au centre de tout. Et en fait, bien sûr, il va pas forcément tomber amoureux, mais il va nouer des relations assez étroites avec une jeune femme qui, elle, est dans un fauteuil roulant, etc. Et je sais pas, il y a tellement... En fait, ce film est hyper dense dedans. Il y a, il y a le sujet du handicap, qu'il soit mental ou physique. Il y a la question de l'immigration. Il y a la question du burn-out, de Alzheimer, parce que son grand-père a Alzheimer. Donc, c'est un film qui est très dense, dans lequel il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités. Et qui sont tous traités avec brio, sans que jamais ça devienne gênant. En fait, t'as une scène qui est absolument extraordinaire, qui est une de mes scènes préférées du film. Où en fait il est en train de, il fait un stop pour déposer des gens à un endroit, bref, et t'as une nana qui est handicapée qui monte sur scène et qui commence à chanter une chanson. Finalement, bon, elle part et il y a un autre type qui arrive et il chante avec un blouson en cuir et tout, et tous les mecs qui sont tous handicapés dans l'assistance commencent à applaudir et tout. Et en fait, cette scène aurait pu être hyper malaisante et aurait pu être condescendante, et en fait à aucun moment c'est condescendant, au contraire on rit avec tout le monde et jamais deux, tu vois, et c'est top. Et en fait donc mon gros kiff c'est non seulement ce film, mais qu'en plus cet après-midi j'ai rencontré le réalisateur. Il faut savoir que l'interview c'est un exercice, c'est peut-être l'exercice dans lequel je suis le moins à l'aise dans mon métier, et c'est assez bizarre parce qu'en fait j'adore parler aux gens, je suis quelqu'un d'assez sociable, mais dès qu'il s'agit d'aller extirper des informations de la bouche de professionnels dont j'admire le travail, tout de suite j'ai une espèce de distance de putain, je suis qu'une merde à côté de ces gens qui font ce que j'aimerais être et ce qui font ce que j'aimerais faire au quotidien. Et donc j'ai toujours une espèce d'énorme appréhension, en général ça se passe bien, et en fait aujourd'hui ça s'est plus que bien passé, donc j'ai rencontré Kirill et
c'est pas si dur, c'est pas genre Mikhanovski ou
Mikhanovski. Oui, tout à fait, mais à chaque fois j'ai envie de dire Kalachnikova, mais je sais pas pourquoi. Et alors que c'est le nom de famille de mon ex.
Pardon, anyway. La Russie.
Peut-être parce que je suis un peu tombée amoureuse de cet homme finalement. Et donc aujourd'hui, j'ai donc interviewé le réalisateur, et en fait, il s'est passé un truc trop bizarre que j'avais jamais eu en interview, c'est que en fait, l'attachée de presse qui s'est occupée de moi avant m'a dit "Tu vas voir, ce réal est hyper sympa et tout machin." Donc j'étais là, oui, ils disent tout ça, mais bon, en réalité parfois, il s'avère qu'ils sont un peu plus secs que ce qu'on nous a bien voulu nous dire. Et en fait, je suis arrivée, j'ai rencontré ce type, on s'est dit bonjour, et en fait, j'avais 10 minutes d'interview, 15 minutes max, je suis restée 40 minutes avec lui, et pendant ces 40 minutes, il s'est passé un truc qui s'était jamais passé avec qui que ce soit que j'ai jamais interviewé dans ma vie. Il y a vraiment une espèce de connexion où, en fait, j'avais l'impression de poser très peu de questions, où il me parlait vraiment à moi et à Emma qui était là pour filmer. C'est-à-dire, il me considérait pas juste moi en tant que journaliste qui vient lui poser des questions, il nous considérait juste comme deux êtres humains qui sont venus lui parler de quelque chose qui lui tient le plus à cœur au monde, et c'est son putain de film qu'il a mis 3 ans à faire. Et en fait, je sais pas, je lui ai posé des questions assez basiques, et en fait, de ces questions basiques, il a fait des monologues absolument incroyable. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose, j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui allait avoir un rôle déterminant dans ma vie, alors que c'était juste un type que j'ai interviewé, mais il m'a donné une telle puissance, une telle envie de créer moi aussi. Je sais pas, il m'a vraiment transmis sa passion, et il m'a dit, tu sais, moi pendant 3 ans j'ai bossé avec ces handicapés, en fait les personnes qu'on voit dans le film, mais vraiment je les ai côtoyés. En fait, à un moment donné, j'ai arrêté de penser que j'étais en train de faire un film, j'ai vu plus loin, c'était plus juste du cinéma, c'était juste de l'humain. Et en fait, je me suis liée à ces gens-là, et en fait, personne n'a voulu nous produire au début, nous filer de l'argent, on a galéré comme des chiens. Et en fait, c'est quand tu touches le fond du gouffre que t'arrives à rebondir, et qu'en fait là t'arrives à créer des trucs de ouf. Et me dis-moi, en tout cas ces gens-là, c'est chez eux que j'ai trouvé la force de réussir à dépasser toutes les épreuves qui se sont mises sur notre chemin quand on a essayé de faire ce film. Et il me dit vraiment, aujourd'hui, ce film, je le fais pour eux. Et c'est My Angels, tu vois. Et il était vraiment genre, il était tellement ému de me parler de ces gens-là que moi, j'étais forcément ému. Donc, j'ai eu envie de chialer pendant toute la durée de l'interview. Et donc, il faut savoir que ce type, personne n'a cru en son travail. C'est que son deuxième long métrage, le premier, c'est vraiment un petit film que 3 personnes et demie ont vu dans le monde. Là, il a tellement cru en son projet, il a tellement ramé que finalement, il a réussi à fabriquer l'objet dont on est en train de parler aujourd'hui, et qu'il l'a amené jusqu'à Cannes, parce que le film a été sélectionné à la 15aine des réalisateurs.
Ah, trop bien. Et je suis tellement fière pour lui.
Ah ouais, moi aussi, j'étais trop fière.
Je le connais pas, mais je suis là. Bravo, Kirill.
Ah non, mais c'est incroyable. Mais non, mais le mec, il doit avoir 45 ans, tu vois. Ouais. Et en fait, il te parle. Je sais pas, enfin, il m'a vraiment fait un truc de ouf, il m'a mis les poils. Et
Ta gueule.
C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Et en fait, là, à la fin, donc, quand on a eu coupé la caméra, il m'a dit, donc je l'ai remercié, et je lui ai dit qu'en plus, il avait touché un truc hyper, hyper enfoui en moi, qui est que moi j'ai une double culture, donc voilà, c'est tout. Et en fait, son personnage principal est moitié russe, moitié américain, et en fait, il y a un truc absolument génial dans le film, c'est ça explore plein de choses de la double culture, c'est-à-dire à quel point tu peux être hyper fier de ton héritage culturel, d'un parent qui n'est pas du pays dans lequel toi t'as grandi, et à la fois de gêne, parce que ouais, c'est vrai, parfois tes parents, quand ils viennent d'un pays qui n'est pas celui dans lequel t'as grandi, ils ont pas tous les codes, ouais. Et parfois ils disent des trucs chelous, et en fait tu peux être super fier comme tu peux être super gêné et même un peu honteux, et donc il explore ça grâce à l'humour. C'est hyper intéressant. Et donc, à la fin, je lui dis merci, parce qu'en plus, moi, ce truc de double culture, ça m'a vachement touchée, machin, je me suis reconnue, blablabla. Et donc là, il m'a fait un câlin, il m'a dit merci, je lui dis, tu m'as trop inspirée, il m'a dit toi aussi. Enfin, bon, bref, c'était un putain de moment.
Oh,
et là, il m'a dit, franchement, mon rêve, ce serait d'aller jusqu'aux Oscars, et que l'actrice, dans le film, t'as une actrice qui est noire et handicapée, elle est en fauteuil roulant, elle a un second rôle, mais un second rôle très puissant et très présent à l'écran, surtout. Et en fait, il m'a dit, mon rêve le plus fort, ce serait que, elle, de l'emmener jusqu'aux Oscars et qu'elle soit sélectionnée dans l'Oscar du meilleur second rôle, tu vois. Et je suis là, bah écoute, je ne te souhaite que ça. C'est un type qui ne pense qu'aux autres et ça se voit. Et en fait, à un moment donné, je lui ai posé la question de à quel moment quand on décide de faire une comédie avec des éléments dramatiques et avec des sujets super sérieux que sont le handicap, Alzheimer et l'immigration, comment est-ce qu'on transforme ça en humour, etc. Et comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train de dépasser les bornes et qu'on est encore dans le juste et qu'on n'est pas dans le trop, tu vois. Il m'a dit, en fait, le seul moyen de pas crosser la limite, tu vois, c'est que c'est de toujours considérer les gens comme ses égaux et de toujours respecter les autres. Et en fait, si tu considères l'autre, que tu le respectes et que tu l'admires, voilà, jamais tu vas pouvoir te foutre de sa gueule et donc ton film il sera jamais border, tu vois, il va toujours être juste. Et je sais pas, il m'a dit des trucs comme ça qui étaient hyper inspirants et ça m'a encore plus conforté dans l'idée que bah ce film c'était vraiment mon coup de cœur, si ce n'est du mois, enfin si ce n'est du mois peut-être des trois derniers mois, j'en sais rien, tu vois, mais vraiment c'est un énorme coup de cœur que je vous conseille tous d'aller voir. C'est un film qui est hyper drôle, qui finit sur une note quand même un peu dramatique, mais qui est vraiment passionnant et qui exploite plein de thématiques qui sont franchement hyper, je sais pas, hyper denses et tout. Et vraiment, ça sort le 24 juillet. Et je voulais aussi aborder le truc qui est que parfois sur Mademoiselle, on m'a dit que j'écrivais des articles beaucoup quand on était partenaire des films. Ce film-là, j'adorerais en être partenaire. Je sais pas si on sera partenaire de ce film-là, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'en parler. En fait, non, sur Mademoiselle, on parle pas que des films dont on est partenaire, on parle des films qu'on a aimé plus que tout. Il s'avère que parfois, on est partenaire de ces films-là parce que justement, on fait notre taf et qu'on les aime tellement qu'on a envie d'engager quelque chose avec eux. Mais ce qui parle avant tout, c'est la passion. Donc voilà.
Eh ben écoute, je pense que tu l'as très bien rendu.
Clap, clap, ah, cool. Sérieux.
Absolument tout. J'ai envie de dire.
Tu peux donner les détails? Les détails du film sorti 24 juillet.
C'est le 24 juillet, c'est donc un film américain réalisé par un type qui est russe américain, qui s'appelle Kirill, et voilà.
Et ça s'appelle Give Me Liberty.
Ça s'appelle Give Me Liberty. C'est par Wild Bunch, voilà, très beau film.
Trop bien.
Courez-y.
Trop bien, cool. J'ai trop hâte.
Oh, allez-y, vraiment.
Je vais réécouter ça. On fera un cinéma.
Sans la vache. Ouais. Donc, du coup, personne ne l'a interrompu. T'as vu, elle est forte, hein. Bah elle dit plein de trucs, elle parle vite comme Olivier Besancenot, genre ta-ta-ta.
Elle est c'est Cédric, tout ce que t'as retenu de ça, j'adore. C'est
elle parle vite comme Olivier Besancenot.
Non, elle est forte, elle parle vite, elle donne toutes les infos clés, à la fin t'es convaincu. Grave. Waouh, putain, tu m'as embarqué dans ton
trop
aventure.
Forte.
Merci.
Excellent, eh bien, tu n'as pas du tout la pression pour la suite, Cédric. Quel est ton gros kiff?
Bah, en plus, c'est un film.
Bah, ouais,
sur lequel j'ai beaucoup moins.
Très ciné aujourd'hui.
Ouais. Bah, oui, écoutez.
Bah, oh non, mais en fait, c'est la joie d'avoir un enfant en bas âge, c'est que c'est que t'as pas forcément le temps d'aller au cinéma. Où du coup tu dois vraiment faire des choix sur les films. Et en fait j'ai enfin vu, avec pas mal de retard, Parasite.
Hein, yes, qui est donc, je suis trop contente qu'on en parle.
Qui est donc la Palme d'Or 2019. Et surtout en fait le dernier film de Bong Joon-ho, qui est le meilleur réalisateur vivant du monde depuis 10 ans.
Okay.
Ah ouais, non, mais
Jean-Michel demi-mesure comme on l'appelle,
oui,
hein.
Bien sûr.
Ah non, mais c'est... En fait, tout chacun de ces putains de films depuis que je les ai vus, tout est génial, juste magnifique, sublime, drôle, sociétal, politique.
Est-ce que tu peux de Okja?
Tout à fait.
Donc t'as Okja. Qui a été son gros truc Netflix. Et en fait son premier gros long métrage connu, c'était Memories of Murder, qui retrace donc l'histoire du premier...
Je l'ai revu la semaine dernière, j'étais là. Tous nuls.
Non, mais ils attendent, ils boivent des coups, ils vont manger, et puis après, il y a des indices qui leur sautent à la gueule, et ils font « on est fort, on enquête ». Non, vous êtes des bolos. Mais après, c'est pas ça le thème du film, bref. Donc, qui revient sur le premier serial killer en Corée, et après, t'as surtout The Host, qui là, vraiment, commence à faire exploser Bong Joon-ho. Et surtout, ses thématiques préférées qui sont une famille face à la société qui a envie de lui défoncer la tête pour des raisons politiques foireuses.
Ah,
en gros, il aime bien filmer des familles pauvres qui essayent de se démerder dans un environnement où les pauvres, on s'en fout.
Tu veux dire la planète dans laquelle on vit
la vie. Le kiff. Le kiff et la digression, le podcast c'est du feel good. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que lui, il prend tout le temps des personnages qui sont bien, bien pétaves. Et donc dans The Host, en fait, son acteur fétiche qui est aussi dans Parasite et dont vraiment le nom, je ne
moi
sais
non
plus.
Moi non plus, je sais pas, j'ai jamais.
Kai Tucci, non, c'est pas ça.
On va googler.
Oui.
On va googler.
Donc,
c'est un moment acteur. Gênant.
Et donc dans The Host, en fait, il joue un peu. C'est le papa un peu, mentalement un peu en retard, dont la fille se fait enlever par le monstre principal. Et donc The Host, ça suit la vie d'une famille pétée qui a raté à peu près tout ce que tu peux rater dans la vie.
Et donc ils se réassemblent pour dire ouais, on va aller récupérer la petite fille qui a été enlevée par le monstre, parce que Zeus c'est l'histoire d'un monstre, pardon, qui sort de la rivière.
C'est vraiment en mode le mec a claqué le monstre sans préavis quoi.
Il y a un monstre qui a été créé.
Mais un monstre genre avec des tentacules dans une rivière et tout.
Ouais.
Mais Bong Joon-ho ne fait pas que des films avec des monstres. C'est juste que dans The Host il y a un monstre. C'est un peu comme Attack the Block, il y a des aliens. Rivière, Séoul, tentacule qui sort.
C'est un peu la fiche, c'est vraiment une tentacule qui sort qui chope une gamine comme ça avec les cheveux
qui
dans le ventre.
La petite fille.
Je crois que je l'ai vu, mais vraiment je me souviens pas que c'était
l'acteur s'appelle
famille,
Song Kang-ho et j'arrive.
Song Kang-ho, voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, dans The Host, il y a un monstre, mais en vrai, c'est pas le monstre qui l'intéresse, c'est parler.
Oui, c'est
en
un
vrai,
élément
c'est
perturbateur,
politique,
quoi.
Tu vois. C'est parler politique.
C'est toujours très
comment...
politique, ces films, toujours.
Oui, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est comment tu survis à un monde qui est pas fait pour toi et qui a envie de t'écraser.
Un peu
comme un parasite.
Dans...
Un peu comme nous tous. Et non, et du coup, c'est exactement ça. C'est qu'effectivement, Parasite, c'est en vrai une fable, encore une fois, politique et encore une fois familiale, parce que tous ces autres films, ils sont quand même sur de la famille, Mother,
faut que tu
famille,
pitches,
tout
Parasite,
ça, tout le
bordel. Parce que...
Et donc, Parasite, c'est donc un film qui est sorti en salle depuis quoi, 3-4 semaines, 4-5
ouais,
semaines.
Même pas.
Et donc, qui a gagné la Palme d'Or et qui est l'un des films déjà les plus. Déjà que j'ai eu l'occasion de voir cette année.
Bravo, c'est vrai.
Vraiment
sur les deux qu'il a vu.
Vraiment sur, ouais, trois.
Sur trois doigts d'une
cinéma.
Main.
Et donc, c'est l'histoire d'une famille qui vit dans un espèce de semi-sous-sol au fin fond de la banlieue, sans doute de Séoul. On ne sait pas si c'est la ville, mais c'est Séoul. Et donc en fait ils vivent dans un endroit où ils ont même pas le wifi, t'as une scène trop rigolote au début où ils sont là genre où est-ce qu'il est le wifi, il y a plus le wifi gratuit et donc ils cherchent dans tout dans leur maison et ils vont au fin fond de la salle de bain où il y a un petit coin où il y a le wifi du café d'à côté. Donc ils ont pas de thunes, ils ont rien, ils sont à l'arrache, c'est la bonne famille de schlagaga coréenne sans thunes, sans rien. Et donc en fait par un concours de circonstances, le jeune garçon de la famille a un job pour devenir prof d'anglais d'une enfant d'une famille super huppée qui vit dans une espèce de maison ultra avec de l'herbe et tout ça, tout ce qu'ils ont pas, tu vois.
Bah, c'est la
avec
fameuse
de
maison de l'affiche, donc l'affiche,
la
je pense que plein de gens
de
l'ont
l'affiche.
Vu, c'est une famille devant une maison en verre et en béton,
c'est
avec
ça,
des espaces verts,
design.
Et tout le monde a un bandeau noir sur les yeux.
Exact.
Et il y a marqué
chercher
l'intrus. Et moi, c'est ma... alors, j'ai pas encore vu le film, j'ai vraiment gardé l'affiche longtemps en mode. C'est quoi un truc? C'est celui qui est allongé ou pas? Je sais pas. Je vais voir le film pour savoir. Ouais. Mais en tout cas, du coup, l'affiche marche très bien parce que vraiment, je me suis arrêtée devant, j'étais là.
Ouais, ça fonctionne.
C'est quoi le puzzle?
Et donc, du coup, en fait, le fils, il réussit à choper ce job-là, un peu en falsifiant son diplôme, machin. Il chope le job et après l'histoire c'est que petit à petit il arnaque un peu la famille, il fait virer un peu des gens qui travaillent pour la famille pour faire embarquer toute sa famille à lui pour remplacer un par un la prof d'art, la gouvernante, le chauffeur, machin.
Ils sans jamais dire qu'ils sont de la même famille.
Voilà, et donc du coup c'est vraiment genre le truc c'est The Usual Suspect,
cette référence
c'est vraiment une
vraiment
sorte d'arnaque familiale, machin.
Je connais quand même Usual Suspect.
Et ça, ce n'est que... En vrai, voilà,
c'est
quand pas... Même
Kaiser
Soze. Kaiser Soze.
C'est vraiment vieux quand même.
Celui qui parle beaucoup. Et c'est comme ça que tu peux repérer qu'en fait... Pas de spoiler.
Ok. Vas-y, arrêtons sur Usual Suspect.
Et donc,
sur,
en fait, ça, c'est que le premier tiers du film, parce que ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça dépasse cette situation-là qui pourrait être un vaudeville rigolo. Pour aller sur... un truc beaucoup plus dramatique. La famille commence à se poser des questions. Et eux, ils découvrent des trucs dans la maison. Ils découvrent un peu l'historique de la maison et des gens qui travaillaient là. Et ça commence à créer du danger. Ils vont se faire repérer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, tu déroules. Et ça va encore plus loin. Parce que ça, c'est aussi le génie souvent des films asiatiques d'aller encore plus loin de la conclusion que tu pourras avoir dans des films qui ne sont pas aussi bien travaillés. Et particulièrement chez Bong Joon-ho. Et en fait, c'est trop bien. Pourquoi ? Parce que c'est super drôle. Et vraiment, c'est très important, l'humour, car ça fait passer beaucoup de messages très rapidement. Et c'est trop, trop drôle. Et les personnages, ils sont trop bien. Et en fait, pourquoi d'autre c'est bien ? Parce que c'est trop bien réalisé. C'est génial.
Non, parce qu'en fait, t'as des twists qui surviennent avant les twists habituels. C'est-à-dire que dans le cinéma américain classique, souvent, les twists, ils interviennent aux deux tiers du film.
Oui,
badaboum, il se passe un truc. Sauf qu'en réalité, le premier twist de l'intrigue arrive vraiment en plein milieu du film, sans que tu t'y attendes. Et en fait, la construction du film n'est pas méga classique. Et je sais pas, ça casse un peu les codes. Mais comme il a l'habitude de faire dans son cinéma habituel, tu vois, c'est que tu vas de faux semblant en faux semblant jusqu'à arriver à...
Celui-ci, je trouve qu'il va, il va justement vachement.
Je ris sur un patacrouc, pas la boum.
Il devient. Il devient presque, dans son traitement, il y a presque un côté un peu grotesque, genre jusqu'à où tu peux t'enfoncer avant que le mensonge explose, tu vois. Et du coup, ils y vont. Et donc, effectivement, à la façon d'un film américain, le twist, il serait aux deux tiers et après, t'as une conclusion et tu fais « Ah, c'était bien ». Là, non. Dès le début, t'as genre un twist, après t'en as un autre et tu fais « Mais c'est le bordel, mais c'est pas possible, mais c'est… Ah, » ah. Et tout le film, t'as genre « Mais quoi ? Mais comment ils vont faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comment, en fait, tout le monde va faire ?» Parce que c'est ça le génie du truc, c'est que au début, tu t'identifies à la famille de parasites, entre guillemets, donc de pauvres qui essayent de s'en sortir et qui trouvent un moyen, qui font « Allez, on va gratter, on va tirer sur la corde ». Et après, au bout d'un moment, tu fais « Ah ouais, mais du coup, bon, ce qu'ils font, c'est quand même un peu chaud. Et la famille de riches, même s'ils les embauchent, genre, c'est chaud. » Et après, tu fais « Et ce qu'ils font aux employés, c'est chaud. » Et après, du coup, tu sais plus trop sur quel pied moralement danser et qui t'es là, genre…
C'est ça.
Qui t'aime comme personnage ou pas, et genre à quel point le traitement du truc qui est, il te met à l'aise ou pas, donc t'es bien dans le malaise. Et après, il va encore plus loin. Et yes. continue à tirer le fil.
Et mais en fait, ce que t'as dit au début, genre, pour moi, c'est l'atout principal du film, c'est que c'est vraiment un film hilarant. Mais et vraiment, quand j'étais dans le film, les gens étaient pliés en quatre. Mais et oui. Je suis là. Vraiment, c'est quand même un film qui a gagné la Palme d'Or, tu vois. Et même c'est si tous les films qui gagnent la Palme d'Or sont pas des films chiants, en tout cas, c'est rare que ce soit des films drôles. Et en l'occurrence, ce film est vraiment hilarant et surtout hyper bien monté, hyper rythmé, tu vois, ça va vraiment de ça fait tac 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 tac. T'as pas le temps de te faire chier, tu vois, et en fait, je pense que le cinéma asiatique, ça peut rebuter plein de gens qui connaissent pas vraiment, qui s'y sont jamais collés, tu vois, et qui doivent se dire je sais pas, c'est chelou ou quoi. Et en réalité, ce que le cinéma asiatique a de super, c'est que non seulement il joue sur les faux-semblants pour révéler des pour avoir 1000 twists et tout, t'es là waouh, ouais. C'est incroyable, tu vois, Seven à côté, c'est du pipi de chat. Et puis surtout où en fait, ils ont une maîtrise du rythme qui fait que tu peux pas te faire chier, tu vois. Ouais. Et en fait, il fait partie de cette vibe de sorte de nouvelle vague de la Corée du Sud, tu vois, de gens hyper brillants qui sont en plus, il faut le dire, blacklistés en Corée du Nord, tu vois. Bong Joon-ho, oui. Comme son acteur principal, comme son actrice, comme une de ses actrices principales, sont tous des gens qui sont blacklistés en Corée du Nord pour dire en fait beaucoup de la société coréenne à l'intérieur de leur récit, tu vois. Donc c'est assez passionnant.
Comme conclusion, Bong Joon-ho, en fait, pour moi, c'est le plus fort parce qu'en plus, il est trop fin et qu'il réussit à ne pas aller et ne pas déborder. Il est tout le temps super puissant sans partir en couille quand il faut pas. Et il part en couille quand il faut. Et il y a plein d'occasions, il peut partir en couille, il le fait et c'est trop bien.
Excellent.
C'est pour ça qu'il faut voir Parasite et tous ses autofilms.
Ok. Mais franchement, Palme vous avez grave donné envie.
Palme d'or.
Parce que,
Palme d'or.
En fait, moi, c'est pareil. J'ai vu les affiches dans le métro. Moi, le truc que je me souviens, c'est faut pas spoiler la fin.
Ouais.
Et
je tiens à dire, dire juste un petit truc là-dessus parce que je trouve que la communication autour de Parasite est hyper mensongère.
Ouais.
Et que n'allez pas voir Parasite en vous disant qu'à la fin vous allez avoir un mindfuck de ouf et qu'il va y avoir un méga twist. Vous allez être déçu du film, donc oubliez la communication un poil mensongère sur le film. Mais laissez-vous emporter par le récit, sinon vous allez mal vivre votre expérience.
Est-ce que c'est pas un peu comme Get Out où en fait c'était grave sur c'est un film d'horreur et tout. Et moi j'étais là, bah du coup je vais pas aller le voir. Et en fait, Kalindia m'a dit c'est vraiment ça fait pas peur du tout. Enfin, genre c'est pas le plot, c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment l'histoire d'un mec qui se retrouve chez des
Parasite enfants. N'est absolument pas un film d'horreur en aucun cas, tu vois. D'accord. C'est un thriller marrant, un film de maison, tu vois.
Non mais vous m'avez convaincu avec le fait que c'est drôle, voilà.
We love
car rire. J'adore rire, voilà, le podcast serait
du kiff,
exactement.
We love rire,
tout à fait.
Et toi Loulou, c'est quoi
le
ton
nom
gros
kiff de mon futur? Mon gros kiff, c'est tous les messages que j'ai reçus après avoir annoncé que je partais de chez mademoiselle.com.
Oh my god.
Donc je vais essayer de ne pas pleurer, et en disant ça j'ai envie de pleurer, bien entendu.
Chaton.
Oh non,
t'es rapide.
Rapide.
Je sais jeter de l'arme.
Ok, c'est bon, je vais pas pleurer. Non, mais la vérité, donc. En fait, on en a pas parlé dans Laisse-moi kiffer encore. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Oh putain. Ok, donc. J'ai annoncé à Mimi et Fab que je voulais partir de Mademoiselle à la rentrée, en septembre. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé dans l'espoir qui fait encore. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux la semaine dernière parce qu'on a lancé en fait l'annonce pour le recrutement de la personne qui va me remplacer. Et donc du coup, je disais que bah oui, pour me remplacer, ça voulait dire que je partais. Et donc déjà, si vous écoutez ce podcast et que vous faites des podcasts et que vous êtes une personne drôle et passionnante et qui avait envie de créer des podcasts, n'hésitez pas à postuler à cette annonce que je mettrai dans les notes de ce podcast. Après avoir dit podcast 150 fois. Et donc du coup, je vais partir en septembre, fin septembre de MAD. Et donc quand j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux, j'ai reçu mais une tonne de messages, c'était un truc de ouf. Genre je reçois régulièrement des messages sur Instagram, mais là, genre, si je pouvais scroller pendant quasiment de manière infinie, j'étais là, ça ne s'arrêtera jamais. Donc j'ai bien sûr pris le temps de répondre à tout le monde un par un, et j'ai vraiment chialé ma mère devant tous les messages. Oh non, chaton.
Je vais vanter Loulou, je reviens vers
pardon. Mais en fait, c'est un truc de ouf parce que en vrai, Mimi, la dernière fois dans ton gros kiff, dans Laisse-moi kiffer, j'étais là, oh, vous êtes trop mignon et tout, mais j'avais toujours vraiment du mal à me voir comme vous me voyez. Ce qui est la base de quand t'es dans ton propre corps, a priori, tu ne vois pas ce que voient les autres.
Du coup, mini aparté, tu m'as annoncé ça et 2 heures après, mon gros kiff, c'était toi. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Peut-être, Loulou. Je me suis dit, c'est l'occasion, elle est pas là, ce sera moins gênant. Allons-y. Bon.
Et voilà. Donc, j'ai reçu des dizaines, je pense vraiment plus de 200 ou 300 messages. C'était un truc de ouf. Et donc, vous avez été tous trop mignons. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment on va faire sans Loulou dans Laisse-moi kiffer et tout. J'étais là, il y aura une autre personne trop cool qui sera dans Laisse-moi kiffer, ça sera bien. Et moi, je viendrai en guest de temps en temps et. Oui. Voilà, quand il y aura quelqu'un qui sera pas là, je serai là, coucou, c'est moi, je reviens. Et voilà, et donc c'est pas un gros kiff qui va durer des heures, juste... ça me saoule. Chaton. Juste merci, en fait, parce que ça fait trop plaisir d'avoir une communauté comme celle de mademoiselle, putain.
Vas-y, Loulou.
J'arrive pas à respirer en même temps, c'est compliqué. Donc voilà, donc ça fait très plaisir d'avoir une communauté comme celle de mademoiselle. Et voilà, ça m'a trop touchée. Vous avez envoyé tellement de bonne humeur et tout. Oh, mais... donc voilà, je vais pas faire 3 heures, mais juste merci. Et je pense qu'il fallait le dire dans Laisse-moi kiffer parce qu'en fait, c'est le podcast dans lequel je suis toutes les semaines. Et donc, à partir de fin septembre, je serai plus là, mais je continuerai à écouter Laisse-moi kiffer, à écouter votre connerie. Et ça me fera beaucoup rire. Et je vais reparticiper, bien sûr, je serai toujours prête dès qu'il y aura un guest qui manquera, et je serai là. Et
sauf quand tu seras en train de mixer.
Sauf quand je serai en train de mixer, tout à fait. Et oui, je tiens à dire ça aussi, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh là là, mais comment on va faire? Oh là là, on va plus t'avoir, tu vas trop nous manquer et tout. » Je ne disparais pas de la planète. Je serai toujours vivante, je serai toujours là, je danserai toujours dans les stories et je ferai n'importe quoi. Donc, si vous voulez continuer à suivre ma personne, vous pouvez me suivre sur Instagram, parce que je pense que ça sera le média que j'utiliserai le plus pour communiquer sur ce que je vais faire après.
Putain, tout ça pour avoir les 10K.
Exactement.
C'est moche, Louise.
Le swipe pour le
et non, mais elle est à 9900 et quelques.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce
que
vous attendez ?
Et en fait, le truc, c'est que, je vais faire plein de projets. Je compte bien continuer à faire des podcasts et continuer à parler de musique et à être de bonne humeur. Donc, je vais, c'est pas parce que je parle de mademoiselle que je vais arrêter tout ça. Et merci encore pour vos messages. C'était trop mignon. J'ai trop pleuré. Pendant 2 jours, j'arrivais pas. Tu sais, je prenais des plages de 1 heure pour répondre aux messages parce que j'arrivais pas, sinon il y en avait trop et j'étais perdue. Donc, voilà, merci. Vous êtes trop chou. Et vous êtes les meilleurs LMCos de la Terre. Car j'ai décidé que c'était les LMCos et vous allez faire quoi?
Putain, mais maintenant on est obligé de dire oui quoi. On peut pas être là. La meuf elle fait son truc d'adieu, mais en même temps chou et en même temps c'est pas la fin.
Et elle a dit c'est pas LMCos.
Ouais, qu'est-ce que tu veux dire?
Ça va être LMCos, voilà.
Et ça va, je suis encore là jusqu'à fin septembre. Oui. Donc voilà, mais c'est juste que comme on l'a annoncé, je pense qu'il y a une vague de gens qui étaient là. Non, elle va disparaître de la surface de la Terre. Comment va-t-on faire? Non, je suis là.
Tous ces Anglais qui nous écoutent et ces Danois.
Tous ces Londoniens qui écoutent Laisse-moi kiffer.
Oh no!
Oh my god!
Voilà.
Did you hear the news?
Did you hear the news?
Un très bon texte.
Voilà. Donc, là, j'ai vu des gens déjà dans l'épisode 50 qui commentaient sur Insta en disant oh, on va compter jusqu'à la fin les derniers Laisse-moi kiffer de Louise. Je suis là, vraiment, en fait, pas ça. Je suis pas décédée, merci. Voilà, je suis bizarre.
Vous allez la déshydrater.
Je suis not dead.
Not dead. Mais j'ai beaucoup pleuré. Voilà, vous êtes trop chou. Et j'ai dit 50 fois déjà. Donc, je vais arrêter de dire ça. C'était mon gros kiff, c'est tout. Voilà.
Je t'aime, Loulou.
Clap, clap, Loulou. J'essaie de faire un applaudissement dans un micro, ouh, c'est ouh, nul. Ouh,
voilà, sur cette excellente note de fin de Laisse-moi kiffer, de ce gros kiff hyper... mais en vrai, c'est une bonne nouvelle.
Mais oui, c'est juste que c'est.
Je vais faire plein de choses.
Qu'est-ce que tu vas faire après, Loulou? Donne un peu des infos sur les.
Qu'est-ce que je vais faire un peu? Écoutez, je vais faire.
You suck at producing, elle a dit.
Je vais faire Wowzers.
Oui, je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je compte bien continuer à parler de musique et je pense que je vais le faire là. Et puis peut-être que je parlerai pas que de musique sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de parler d'autres trucs parce qu'il n'y a pas que la musique que j'aime bien.
Le cinéma nord-coréen.
Exactement.
Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais faire des podcasts. J'ai plein d'idées de podcasts. Et je vous spoil pas parce que je préfère pas annoncer les trucs que je vais faire tant que je les ai pas fait.
Yes.
Smart move. Et oui, smart. Et je vais continuer à mixer. Et voilà. Je vais faire plein de trucs. Ça va être super.
Yes.
Ouais.
Trop hâte de voir tout ce que tu vas faire, Loulou.
Oui, ça
va être
bien.
Tu vas manquer, Loulou.
Bah, moi aussi, vous allez me manquer. Je suis trop triste d'arrêter. Laisse-moi kiffer. Tu crois quoi?
Je sais bien. Mais dès qu'on a un opening. Dès que Cédric il est en retard, tu viens. Parce que toi, tu seras à l'heure.
Ouais, ça c'est sûr. Surtout si je peux reprendre un micro dans Laisse-moi kiffer pour dire « Je suis trop de bonne humeur !» Voilà. Eh bien, sur ce, chers amis, c'est la fin de Laisse-moi kiffer. Vous connaissez les bails. Vous allez laisser votre vie de bolos sur Apple Podcast. Vous mettez 5 étoiles parce que vous êtes trop sympa. Vous parlez de Laisse-moi kiffer autour de vous car vous adorez ce podcast et que ça fait 51 épisodes que ça dure. Et que vous avez envie que
Suzanne derrière toi qui est là.
Et que vous avez envie que vos amis découvrent ce podcast et qu'ils bingent 50 épisodes d'un coup. Car c'est le cas de plein de gens qui me disent « Ah là, je suis à l'épisode 9. C'est super. »
J'aime trop les gens parce que des fois, ils me disent « Oh là, trop marrant, tel truc. » Je suis là, je dis ça.
Vraiment,
il y a un manif.
C'est ça. Et moi, ça, et bah, quand j'ai annoncé que je partais, il y a des gens qui sont là. « Ah ouais, c'est marrant parce que je viens d'écouter l'épisode où tu disais que t'avais plus trop de rêves et tout, machin. » Je suis là, « Attends l'épisode en public. Tu vas voir, je dis un truc qui fera sens après. Tu verras. »
Attends, teasing, mon gars.
T'as construit ton storytelling depuis 50 épisodes.
Tu sais, c'est fou, je m'en suis rendu compte.
C'est du rétro-engineering de « Vas-y, je vais être DJ. »
J'avais pas prévu, mais franchement, c'est stylé. Et voilà, parler de Laisse-moi kiffer autour de vous, c'est super. Et surtout, d'ici la prochaine fois...
Touchez-vous bien, Kiki!
T'as le seum, Mimi. Bisous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.